Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir sur ce sujet, qui est un sujet important parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'empoisonnent la vie à cause de ça. Et que on va voir qu'on peut régler cette chose-là. Dans la mesure où on n'entretient pas, alors elle peut se régler d'elle-même. Si on l'entretient, comme toutes les mauvaises choses, elle peut durer longtemps. Alors il faut comprendre, c'est écrit dans la Torah, « Lotikom velotitor ». Tu ne devras pas te venger et tu ne devras pas garder rancune. Et bene amecha, comme c'est marqué dans le texte, a priori, ça concerne les gens de ton peuple. Ve'afta le'reacha kamocha, la fin du pasouk, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Donc il y a plusieurs questions déjà. La différence qui existe entre la rancune et la vengeance. Parce qu'il y a deux interdits différents. L'otikom, le fait de se venger. L'otitor, le fait de garder rancune. Maintenant, on sait que l'otitor, la rancune, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur de la personne. Alors que la nekama, c'est déjà physiquement, c'est vécu. C'est-à-dire, il va y avoir un acte, il va y avoir quelque chose, il va y avoir des conséquences. Donc maintenant, première question, pourquoi est-ce que la Torah s'est intéressée à ce que j'ai dans le cœur? Bon, j'ai des choses dans le cœur. J'ai la haine contre quelqu'un. Oh, c'est mon problème. J'ai la rancune. C'est mon problème. Pourquoi que ça change si je fais rien? Je l'aime pas cette personne. Je l'aime pas. Voilà. Après, numéro 1, je l'aime pas. Numéro 2, j'ai la haine. Numéro 3, j'ai envie qu'il lui arrive des problèmes. Mais elle sait rien. Tout le temps, je suis bien. Comment ça va, chérie? Comment ça va? On va ensemble. Tu veux faire des choses? Tout va très bien. Mais à l'intérieur, c'est mauvais. Pourquoi la Torah, elle s'intéresse à ce que j'ai dans le cœur? Deuxièmement, pourquoi c'est collé avec le pasouk Ve'aftal et Re'acha Kamocha? Tu aimeras ton prochain. A priori, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a un interdit de se venger, un interdit de garder rancune, et à part ça, il y a une mitzvah d'aimer l'autre. Bon. On a déjà beaucoup parlé de cette mitzvah-là, mais on va revenir dessus. Après, pourquoi se termine ce pasouk avec Ani Hashem, je suis l'Éternel? Il n'y a pas écrit Mele Tefilin, Ani Hashem, Fais Shabbat, Ani Hashem. Alors pourquoi, juste maintenant, tu termines le pasouk en disant je suis l'Éternel? Quel rapport maintenant? Qu'est-ce que ça apporte de plus cette fois-là? Alors, la Gemara, elle explique là-bas dans Yoma, Davkav Gimel, elle explique la différence entre la Nekima et la Netira, le fait de se venger, de garder rancune. Elle donne deux exemples, la Gemara. Elle dit à quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il va chez son voisin, il dit alors prête-moi cet objet. L'autre, il dit non. Alors, le lendemain, celui qui a dit non, il a besoin d'un autre objet. Il va chez la personne qui lui a demandé la veille, il dit toi, prête-moi quelque chose. L'autre, il dit non, je te prête pas. Comme toi, tu m'as pas prêté hier, alors moi aussi, je te prête pas. La Gemara, elle dit ça s'appelle la Nekima, ça s'appelle la vengeance. Maintenant, si le lendemain, la personne, elle dit, tiens, je te prête, mais pas comme toi que tu prêtes pas, moi je prête, pas comme toi, ça veut dire que depuis hier, elle a gardé dans la tête ce problème-là que l'autre n'a pas prêté. Alors ça s'appelle la netira, s'appelle la rancune. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe que quelqu'un, on a dit, il garde des choses dans son cœur? Alors il faut déjà établir des choses très, très, très claires. Si vous regardez bien l'exemple que la Gemara a choisi, comment ça se fait pour expliquer la rancune et la vengeance? La Gemara, elle n'a pas dit quelqu'un qui m'a volé 1 million d'euros, quelqu'un qui a tué mon frère, quelqu'un qui m'a insulté, quelqu'un qui m'a frappé. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas donné des exemples concrets? Quel exemple on a donné? Quelqu'un, je lui ai demandé un service, il m'a dit non. Bon, il m'a rien fait. Oui, il m'a dit non. Alors moi, puisque lui, il m'a dit non, alors moi, ou je vais lui dire non, ou alors je vais lui dire oui, mais je vais lui rappeler, je vais lui faire rappeler que moi, je me rappelle qu'il a dit non. Cet exemple de la Gemara, il est bizarre. C'est pas du tout les exemples que nous, sur lesquels on aurait donné le principe. Maintenant, quand la Gemara a donné cet exemple, ça veut dire qu'elle pense que c'est là-dessus que ça s'applique. La halakha de la vengeance et de la rancune. Donc le Ramban, il explique là-bas très bien. Il dit que la halakha, elle est que quand moi j'ai un problème concret avec quelqu'un, concret, il m'a cassé un bras, il m'a volé ma voiture, il m'a emprunté de l'argent, il m'a pas rendu, il m'a fait un problème dans le business. C'est du concret, c'est du réel. Ouais. À ce moment-là, si moi, je garde ça dans ma tête, parce que pour les besoins du procès, parce que le procès il va durer 4 ans, ouais, ou alors parce qu'il ne veut pas payer les dommages d'intérêt, ou parce que je vais voir l'avocat, ou parce que je cherche des preuves, je dis, mais pendant tout ce temps-là que tu gardes les choses dans ta tête, tu transgresses l'interdit de garder rancune. Et si en plus tu tires des conséquences, ça s'appelle que tu te venges. Alors je vais venir chez toi, je dis, alors le religieux, soi-disant le religieux, ça fait 4 ans qu'il est en procès, tu me saoules. Et la Torah, elle a dit, l'otikom velotitor. Il dit, le Ramban, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Ça ne s'appelle pas garder rancune et se venger. Pourquoi? Parce que le dommage, il est réel. Ouais, quand le dommage est réel, il n'y a pas d'interdit de garder rancune. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas en train de garder rancune. Je suis en train de régler un problème. Tu as cassé, tu vas payer. Allez, je t'en prie, qu'est-ce que c'est pour toi, 6 millions de dollars? Non, 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 c'est pas. Tu les as pris, tu as signé un contrat, c'est contractuel, c'est marqué, je rembourse, c'est pas. Tu le fais pas, je me bats pas avec toi, je me bats avec ta signature, c'est ta signature, c'est signé, c'est toi qui as signé. Allez, je t'en prie, c'est mon beau-frère. Tu vas pas tout mélanger, tu me dois l'argent, tu me dois. Tu as cassé la voiture, tu payes la voiture. Ah, tu as 4 voitures, qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas ton problème. Toi, tu fais des comptes combien moi je gagne. Toi, tu me dois, tu dois payer. Dans les cas où le dommage est réel. Pourquoi? Il apprend de la Guémara. Parce que tu vois que la Guémara, elle a dit que l'interdit de rancune et de vengeance, il s'applique à quelqu'un, encore une fois, à qui j'ai demandé un service et qui ne me l'a pas fait. Maintenant, essayez de comprendre. Si quelqu'un m'a fait du mal, réel, j'ai le droit de garder ça en tête. Si quelqu'un ne m'a pas fait du bien, là-dessus, la Torah, elle a dit, il est interdit de garder rancune et de se venger. C'est bon? J'ai demandé service à quelqu'un, il ne m'a pas rendu service. J'attendais quelque chose de quelqu'un, il m'a déçu. C'est bon? La Torah m'a dit, là-dessus, c'est interdit de garder rancune. Et c'est là-dessus qu'il s'applique l'interdit. Maintenant, quelqu'un qui ne m'a pas fait du bien, il ne m'a pas fait du bien, mais il ne m'a pas fait du mal. Il ne m'a pas fait du bien. Ça va? Alors, puisqu'il ne m'a pas fait du bien, il ne m'a rien fait. Et c'est là-dessus que la Torah elle a dit que c'est interdit. Donc la Torah a interdit d'en vouloir à celui qui m'a rien fait. Ça va? Je dis, mais t'es un malade mental. Il t'a rien fait. Il t'a rien fait. Pourquoi tu lui en veux? Bah, tu sais, j'attendais beaucoup de cette personne. Et j'ai beaucoup investi. Et j'y ai cru. Et j'ai cru. Bah, où tu vas? Où tu vas? C'est quoi qui est déçu? C'est quoi? C'est ton amour propre. C'est quoi? C'est tes nerfs. C'est quoi? C'est le crédit que tu as donné. C'est quoi? C'est le manque de confiance que tu as en toi. Ça n'a rien à voir avec un problème. Donc tu vois bien que la Torah, elle a été dans la finesse de la psychologie de quelqu'un, que jusqu'à quel point est-ce que toi, tu peux polluer ta tête avec une chose qui n'existe pas. Et ça, c'est une défense du Yetzirah, parce que le Maharal, il dit « En mitziut lara ». Le mal n'a pas de réalité. Le mal n'a pas de réalité. Donc la meilleure manière d'empoisonner quelqu'un, c'est pas de lui créer un problème. C'est de l'aider à se créer un problème grâce à toi. C'est un peu la logique de la peur. Ouais? La peur. Comme les terroristes. Ils font peur. Donc il met une bombe. Après, il n'a pas besoin de remettre une deuxième bombe. Parce que lui, il veut pas que tu te battes. Il veut que tu aies peur. Et tu as peur. Donc tu mets les mesures de sécurité. Trois ans après, il remet encore une autre bombe. Et toi, tu as toujours peur. Ouais? C'est pareil, un enfant. Tu n'as pas besoin de frapper tous les jours. Frappe-le à des moments où il ne s'y attend pas. Il a toujours peur maintenant, parce qu'il ne sait pas quand ça va revenir. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas toujours violent. Non, tu n'es pas violent tout le temps. Tu es violent de manière imprévisible. Si tu lui dis tous les lundis matin, 8h, je te mets une tannée, l'enfant, il dit, bon, toute la semaine, il est tranquille. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé un climat que lui, il ne sait pas. C'est un peu imprévisible, lunatique, le jour, la nuit, n'importe quand, tu viens en souriant, tu le frappes. Espèce de nazi comme ça, ouais. Donc cette logique, c'est quoi? C'est que tu as créé un climat. Comme ce climat, il est fondé sur rien, puisqu'il est irrationnel, oui, il va aller très loin. Pareil, quelqu'un, tu lui mets un coup de poing, ça fait mal. Mais quelqu'un, tu lui dis une méchanceté, ça fait plus mal. Si tu dis une méchanceté qui le concerne vraiment, ça fait encore plus mal. Si tu dis une méchanceté sur la base de quelque chose que tu t'as confié, ça fait encore plus mal. Donc ça prouve que la chose, plus elle est irrationnelle, plus elle fait mal. Donc la Torah, elle t'a dit, fais bien attention à ce que tu développes dans ta tête, dans la relation avec l'autre. Et si quelqu'un, il va dire, mais j'ai rien fait. Alors c'est ça la différence. C'est ça la différence. Que quelqu'un, il pense avec son corps, ou quelqu'un, il pense avec sa tête. Nous, dans Am Israël, on pense qu'un homme, il est à 5% un corps physique, et à 95%, il est un diffuseur d'énergie. Tu diffuses de l'énergie. Oui, tu crées une réalité à chaque instant. Donc l'atmosphère que tu crées autour de toi, les pensées que tu as, les sentiments que tu mets, l'esprit que tu mets dans les choses, c'est ça qui te définit. C'est rien du tout, les gestes, c'est même pas intéressant. C'est l'esprit. Donc quand tu mets un esprit d'angoisse quelque part, on va pas te reprocher les faits, on te met l'angoisse. Quand tu mets du faux, on te reproche le faux, on te reproche pas le langage que tu as tenu. Oui, ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle dégage une énergie. Donc la Torah, elle est très attachée, parce que le diffuseur de l'énergie, c'est le cœur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu fais attention, tu dis, mais il n'y a rien. Oh, ça ne se voit pas. Ça n'est pas touché par la loi, puisque ça ne se voit pas. dis oui, justement, il y a une autre loi. Il y a une loi qui est jugée par les hommes. Il y a une autre loi qui est jugée par Hachem. Mais celle qui est jugée par Hachem, il n'y a que toi qui peux la connaître. C'est qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur? Ah, tu dis, mais j'ai rien fait de mal. Si, parce que ça a les mêmes conséquences. L'énergie qu'on diffuse, elle a des conséquences. Donc ici, c'est marqué qu'un homme, il a un interdit d'en vouloir à quelqu'un qui, en fin de compte, ne lui a rien fait. Donc ça veut dire quoi? Comment ça se formule? La logique, elle est là. Vous voyez, la vie, c'est un puzzle. Donc moi, je suis une pièce de puzzle. Toi, tu es une pièce de puzzle. Toi, tu es une pièce de puzzle. Toi, tu es une pièce de puzzle. Alors, on a dit, quand Israël arrive, Vim Zélazé, tous les bénis Israël sont responsables des uns des autres. Mais le mot Arev, qui veut dire responsable, il veut dire aussi Mehourav, il veut dire mélangé. Maintenant, il y a un deuxième élément qu'il faut avoir, qui s'appelle Akshbuchu Mezavek Zivugim. Hachem, il crée des couples. Ça veut dire, et c'est pas seulement la personne que j'épouse, la personne que j'ai en face de moi, elle n'est pas là par hasard. Maintenant, je dois être capable de comprendre dans quelle mesure que les rencontres que je fais de mes amis, ou de mes ennemis, des gens qui m'aiment, des gens qui m'aident à me construire, ou des gens qui essaient de me détruire, ils ont quelque chose à voir avec moi. Ils ont un lien avec moi. Alors comment on appelle la complémentarité que je crée entre moi et la réalité qui m'entoure? On appelle ça en hébreu le tov. Le tov. Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire bon. Mais dans le langage des Chachamim, ça j'ai expliqué des centaines de fois, mais... il faut le réécouter pour que si Dieu veut un jour, moi-même je vais le comprendre. C'est quoi Tov? C'est Shalem. Tov, c'est Shalem. D'accord? Quand Hachem il a créé le monde, il a terminé, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Ça veut dire que c'est complet. Quand l'homme il n'est pas marié, la Torah elle dit Lo Tov Iyot Adam Lebado. Ouais? L'homme n'est pas Tov. Ça veut dire quoi? Il n'est pas bien? Non, il n'est pas complet. Tov, c'est complet. Et quand l'homme et la femme se marient, on dit Mazal
Tov.
Tov. Donc. Tov, c'est complet. Si Tov, c'est complet, alors quand la Torah dit « Kol de'avid rachamana l'etav » comment on traduit nous? Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et c'est quoi le bien? Si tu traduis le bien comme les enfants de 8 ans, ça veut dire ce qui me fait plaisir. Donc le bien, c'est ce qui me fait plaisir. Le mal, c'est ce qui ne me fait pas plaisir. Il n'y a pas écrit ça. Tov, c'est Shalem. Donc « Kol de'avid rachamana l'etav » tout ce qu'Hachem fait, c'est pour me compléter. Ça va? Maintenant, la complémentarité, c'est pas toujours des choses qui font plaisir. Tu vois, le professeur, il te complète. Tu dis, mais il me stresse. Tu vois, ton enfant, il te complète. Mais il me remet en cause. Tu vois, ta femme, elle te pousse à bout. Mais elle t'oblige à donner le meilleur de toi-même. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est ça, Tav. Tav, c'est que ça te complète. Donc, ça veut dire que chaque instant de vie, chaque rencontre que tu fais, elle vient pour fabriquer une pièce de puzzle avec l'autre. Tu viens fabriquer une pièce de puzzle. Toute la vie, on fait ce puzzle. Puzzle ou tout? Un puzzle. Bon, je sais pas. D'accord? Bon, j'ai essayé. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que moi, je dois déjà accepter, oui, que je peux faire l'autre avec l'autre. Et deuxièmement, je peux faire un avec l'autre. Et je dois accepter que peut-être c'est une obligation de faire un avec l'autre. Alors c'est pour ça que la Gemara dans Nedarim, dans Yerushalmi, elle dit une chose incroyable. Elle dit comme ça. L'otikom velotitor, ech avida. Quand l'interdit de garder rancune et de se venger, comment il existe? Il dit pourquoi? Alors là-bas le Korban Aeda, c'est un commentaire, il dit ech bistaber shimchol adam al elvono. Comment ça peut être logique qu'un homme va pardonner la honte qu'on lui fait? Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire que la question de la Gemara, c'est comment la Torah, elle peut demander quelque chose d'impossible. C'est comme si toi, tu es là, et je te préviens pas, je te mets une baffe. Pah! Très forte. Et je te dis, prends sur toi. C'est Mina Shamaïm. Genre, t'as même pas mal. On dit, l'onit na Torah, les malachas charet, la Torah n'a pas été donnée à des anges. J'ai un corps. J'ai un ego, j'ai une susceptibilité. Là, maintenant, ça fait mal et j'ai envie que tu meurs. Maintenant. Peut-être tout à l'heure, je vais me travailler, je vais accepter, je vais... Mais maintenant, si on me demande maintenant, si j'ai le pistolet maintenant, je te tue, après on discute. Après je fais tes chouvas, je lis les livres de Moussa, mais maintenant, il faut que tu meurs. Comme ça, il dit le Chafetz Chaim. Il dit au moment même de la douleur, au moment même de la souffrance, au moment même où tu te rends compte que l'autre, il t'a embrouillé, Tu peux pas dire je t'aime, nous sommes tous des frères, aimons-nous les uns les autres. C'est pas possible, papa. Au moment même. Ouais. Il y a pire. Il y en a un qui, d'ailleurs, qui était proche de nous. Il a dit pire, lui. Non seulement tu acceptes le coup, mais en plus tu tends l'autre joue. Bon, on n'a pas retenu cette théorie, on a fait une croix dessus. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle peut pas. Regardez, là, c'est la question de la Guémara. La Guémara, c'est des Tanaïm, des Amoraïm, des gens qui faisaient revivre les morts. Donc au niveau des Midot, c'était des champions du monde. Mais ils ont dit, Ermistaber, Shimchol, Adam, Al-Edvono, comment la Torah, elle peut demander un truc impossible? L'autre, il commet l'autre, mais c'est pas possible. Maintenant, tu m'as planté. Tu m'as fait du mal. Je vais dire, c'est pas grave. C'est la Guémara, elle comprend pas, ouais. Alors, regarde ce qu'elle répond. Elle dit à Machal, c'est comme si quelqu'un, il a envie de couper de la viande. Il a pris un bout de viande, mais il n'a pas de planche à couper. Il est comme ça, il est dans le désert. Il a le couteau et la viande. Il attrape bien la viande, il la tient bien. Il commence à couper la viande. Manque de peau, la lame, elle glisse sur la viande et elle lui entaille un bout de la main. Alors il dit, est-ce que cette main-là, elle va jeter la viande, elle va prendre le couteau, elle va tailler l'autre main? Il dit, ve'aketiv, et pourtant c'est marqué, ve'aftalerah kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le monde demande, il dit, mais je comprends pas, de quoi elle parle la Guémara? Toi, tu me parles d'un type, il est en train de faire une action, d'accord, qui est dans son intérêt à lui. Il veut couper de la viande. Maintenant, sa main à lui, elle a glissé. Elle a coupé son autre main à lui. Alors, son autre main à lui, elle ne va pas se manger de l'autre main. Tu dis, mais c'est normal, c'est le même corps. Alors, tu n'as rien compris, toi, c'est l'inverse. Ouais. Le Maharal, il dit, Kol Israël gouf echad. Tout Israël, c'est un seul corps. Toi, il faut que tu arrives à te mettre dans la tête que le juif, de l'autre côté, il fait partie de toi. C'est pour ça que c'est marqué Loti comme ve Loti tor ve aftal et reacha kamocha. Pourquoi on a collé les deux? Pourquoi on a collé l'interdit de rancune et de vengeance et à côté tu aimeras ton prochain? Alors on a expliqué déjà ça 1 million de fois. Je m'excuse pour les gens qui réécoutent, mais pour les autres ça va leur faire du bien, et même pour ceux qui réécoutent, je pense. Parce qu'en fait, j'ai expliqué déjà plusieurs fois qu'on met des années à comprendre ce qu'on sait. Les gens, ils croient qu'on ne savait pas, et un jour on sait. Ils sont contents, ils disent « Ah, je sais, ah, je sais, ah, je sais. » Non, 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 c'est pas intéressant de savoir. C'est rien de savoir, tu fais copier-coller. C'est pas savoir, ça. Est-ce que tu vas te lever devant un ordinateur, tu dis « Tu sais tout ce qu'il y a dedans. » Kavod, à computer. C'est rien, l'ordinateur. C'est copier-coller. Donc, ça sert à rien de savoir. Enfin, je veux dire, toi, tu sais rien, mais c'est normal de savoir. Le problème, c'est est-ce que tu comprends ce que tu sais? Maintenant, on met des années à comprendre ce qu'on sait. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je fais des cours. Ben, ce cours-là, il est usé. Et ben, je le comprends de mieux en mieux. Une fois, quelqu'un il m'a dit, mais je comprends pas, il m'a dit, on a toujours la tête embrouillée, on apprend plein de guémarotes, plein de midrashim, on n'est pas clair. Je dis, tu vois, moi j'ai un problème, c'est que comme je voyage beaucoup, j'ai pas tellement de temps d'étudier. Donc, je suis obligé de comprendre de mieux en mieux ce que je sais déjà, puisque je n'ai pas appris autre chose pour m'embrouiller. Alors que toi, tu apprends une nouvelle Guémara que tu as compris à moitié, donc tu es obligé d'essayer d'être méliachef, d'arranger avec celle-là que tu as compris à moitié, puis celle-là que tu as compris à moitié, à la fin, tu as tout compris à moitié. Donc tu n'as rien compris en fait. Tu dis, bah, à ce moment-là, il faut arrêter d'étudier. Non, il faut réussir à étudier en parallèle beaucoup de choses, en connaissance, mais à part ça, prendre des sujets que tu vas faire en approfondi, à 100%. Tu dis, celui-là, je l'ai nettoyé, je l'ai essoré, je l'ai terminé. Après, tu passes encore un autre. Il faut faire ça. Sinon, au fond, ça ne t'appartient jamais. Et ce n'est pas que dans l'étude, dans la vie, c'est pareil. Un jour, tu vas t'asseoir, tu vas dire à ta femme, tu dis, voilà, je veux te comprendre. J'en peux plus, j'en ai marre de ces gamineries, de ces toi, c'est moi, c'est ta mère, c'est ton frère, tu vas truquer, tu vas mentir, tu vas... Tu sais quoi? Tu vas m'expliquer. J'ai le temps maintenant, voilà, je vais m'asseoir, j'ai bloqué le travail une semaine, je vais faire que ça maintenant. Je fais à plein temps, bonjour madame, qui êtes-vous? Tu dis, mais t'es fou, mais t'es malade. Mais t'es malade. Mais pourquoi faire? De toute façon, je travaille pourquoi? Pour qu'on s'engueule toute la semaine. On prend une semaine, porte ouverte, je me mets du scotch, tu m'expliques qui tu es. Et moi, je vais faire pareil pour toi. Pour moi. Je vais t'expliquer. Voilà, je vais te dire. Je ne fais pas la mytho, je ne fais pas le truc, je ne t'invente pas des histoires, je ne te dis pas des peurs, je ne fais pas des malaises. Je suis en connaissance de cause à 45 ans. Aujourd'hui, je te dis, voilà, quand je dis ça, ça veut dire comme ça. Si ça, ne le prends pas mal. Je ne suis pas en train de me justifier. On peut parler comme ça. On peut prendre du temps pour le faire ou non. C'est-à-dire que tu vas faire la sugya de ton mari. Un jour, tu vas la faire. La sugya de ta femme, tu vas la faire. Les enfants, c'est pareil. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent un petit peu ici, un petit peu le soir, un petit peu à la sortie de l'école, un petit peu leur courrier, un petit peu sur Facebook. Un jour, tu vas t'asseoir, tu dis, je vais faire la sugya, le sujet talmudique de mon fils. C'est pas grave. Oui. Et avec tout ça, peut-être un jour, tu vas dire, je vais faire le mien. Au lieu d'attendre que le psy m'explique qui je suis, que mes ennemis me définissent, que mes épreuves me fassent grandir, peut-être tu peux t'asseoir toi et dire, bon, qui je suis? On appelle ça en français réfléchir. J'ai expliqué le miroir ici, non? Ça vous dit rien? Ouais. Quand je réfléchis. Non, pas ça. Vous voyez, quand quelqu'un... Vous savez que quand vous prenez un objet, vous le mettez en face d'un miroir, le miroir réfléchit l'image qui est l'objet qui est devant le miroir. C'est bon? Ça s'appelle un reflet. Donc on dit en français, c'est l'objet, le miroir réfléchit l'image de l'objet. D'accord. Donc quand je te demande à toi, est-ce que tu réfléchis? Tu dis, mais je suis pas un miroir. Oui, intéressant. Donc, c'est quoi réfléchir? C'est pareil, raisonner. Tu dis, je ne suis pas une guitare, donc je vais raisonner. Alors, quel rapport entre la réflexion du miroir et la réflexion de la vie? Alors, je te dis pourquoi. C'est quoi réfléchir? Réfléchir, c'est que moi-même, en tant que personne propre, je fabrique une image de ma réalité dans ma tête. Ça va? Ça va, moi? Ça s'appelle je réfléchis. Je réfléchis l'image de ma femme dans ma tête. Je réfléchis mon mari, je réfléchis ma Torah, je réfléchis ma prière. Voilà, t'as prié ou non? Bah écoute, j'ai prié. Non mais, est-ce que t'as prié? Attends, une seconde, je vais réfléchir. Ah donc, ça veut dire qu'au moment où tu priais, t'as pas réfléchi. Réfléchir, ça veut pas dire que j'ai utilisé ma tête pour développer un concept. C'est pas ça réfléchir. Réfléchir à la base, c'est déjà de fabriquer une image de ma réalité en temps réel. Donc le fait que tu réfléchis prouve que tu es en contact avec ta réalité. Donc quand tu dis, j'ai pas réfléchi, ça veut dire soit que ta tête était ailleurs, soit que t'étais nulle part. Après, tu dis, ouais, je comprends plus ma femme, je comprends pas mes enfants, je comprends pas le business, mais réfléchis, n'arrête pas de réfléchir, arrête pas. Comprenez le nom? Quand un homme essaie de réfléchir, dans le langage des moussards, on appelle Essihadahat. Dans le langage des chachamim, on appelle l'avera. C'est ça une avera. Une avera, c'est que tu as coupé le contact avec la réalité. Pour ça, il dit Rav Dessler, Rechaim netoulé metziout. Les fauteurs sont détachés de la réalité. Mais je comprends pas, j'ai rien fait de grave, je me suis juste détaché. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vide dans ce monde. Donc, quand tu enlèves ta tête, c'est le Satan qui prend ta tête. Après, tu dis, j'ai pas réfléchi. Oui? Alors, maintenant, je vous dis un truc en plus. Ça, c'était une idée simple. Une idée plus compliquée, c'est quoi? C'est que quand moi, je réfléchis, donc que j'ai conscience de la réalité qui est en face de moi, et je crée une image dans ma tête, oui? Si en même temps, la personne à qui je m'adresse, elle fait le même travail. Donc, moi, maintenant, j'ai un problème. C'est que moi, il faut que j'analyse l'image que j'ai de toi, et toi, que tu analyses l'image que tu as de moi. C'est toujours bon? Et bien, si je ne veux pas avoir des complexes, des malaises avec l'autre, c'est ce que je veux faire. Je vais essayer de comprendre l'image que toi, tu as de moi. L'image que moi, j'ai de moi, je suis censé la connaître. L'image que toi, tu as de toi, ouais. Toi, tu as de moi, j'essaie de la comprendre. Alors moi, je peux essayer de comprendre l'image que toi, tu as de toi, de ta réalité à toi. C'est-à-dire que quand moi je me mets à ta place à toi et je regarde la réalité comme toi, on n'a plus de problème. Donc c'est quoi le conflit? Le conflit, c'est que moi je regarde ma vie avec mes yeux et ta vie avec mes yeux. Je te dis, mais regarde ma vie avec mes yeux au moins. C'est pour ça que je suis déçu. Tu sais, j'attendais beaucoup plus. Je comprends même pas pourquoi tu réagis pas. Moi, à ta place, j'aurais pas fait comme ça. Oui, mais tu me demandes moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc, dis pas moi à ta place, puisque tu me parles de moi. Tu vois, les gens ne parlent. Tu vois, bah, franchement. Je vous prends un témoin. Qu'est-ce que vous dites d'un tel comportement? J'ai pas compris. J'explique comment vous le percevez, pour que je juge l'autre. Vous voulez que moi, je pense comment l'autre, il le perçoit? Qu'est-ce que vous voulez exactement? J'ai même pas compris votre question. Comment moi, je le perçois? Mais moi, c'est pas ma vie à moi. Mais vous, moi, je suis pas son mari, moi. Mais vois sa place, mais moi je suis pas elle. T'as compris ce problème? Vous savez, les deux yeux. Vous savez que les deux yeux ne voient pas la même chose, vous êtes au courant. Les deux yeux ne voient pas la même chose. Quand vous faites comme ça, vous voyez un angle. Quand vous faites comme ça, vous voyez un autre angle. Donc c'est deux images. Il y a deux caméras là, qui sont différentes et qui sont autonomes. Maintenant, il y a un logiciel extraordinaire dans le cerveau qui superpose les deux images pour en faire une seule.
Je vois pas.
Eh ben, lo alechem, tras veshalom. Sachez qu'une des premières conséquences et un des premiers symptômes de la sclérose en plaques, c'est que les gens, ils voient les images en double. Parce qu'ils détruisent des cellules qui ont été détruites dans le cerveau, qui justement, leur fonction, c'était d'unifier les deux images, les deux faisceaux d'images des deux yeux. Ça va? Alors moi, je vous donne une image. Ça, c'est par rapport à soi-même, qu'il y a deux faisceaux. Mais dis-moi, l'œil de ta femme et le tien, c'est deux faisceaux ou c'est un faisceau? Comment on va unifier nos faisceaux? Oui? Toi, tu regardes l'enfant. Moi, je le regarde comme ça, toi, tu regardes différemment. On n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est déjà bien, il me dit, vous savez, monsieur le rabbin, nous avons des très gros conflits, nous ne sommes pas d'accord du tout sur l'éducation des enfants. Je dis, ben, il faudrait vous mettre d'accord. Parce que les enfants, ils ne veulent pas avoir deux discours, il leur faut un. Parce que s'il y en a deux, ils vont trouver un espace au milieu. Il faut vous mettre d'accord. C'est ça. Pour ça que le shalom, ça vient avant l'éducation. C'est normal. Parce que l'enfant, il est déstabilisé. C'est comme si ton œil, il voit là et ton œil, il voit là-bas. Tu vas devenir fou. Donc le bon Dieu, il est sympa, il a superposé. Et bien là, le logiciel de superposition des deux visions avec l'autre. C'est pour ça que j'ai dit le miroir. Donc moi, j'ai mon miroir et toi, tu as ton miroir. Donc moi, je fabrique mon image de la réalité et toi, tu fabriques ton image de la réalité. Et la Torah, elle a dit, faites un. Pourquoi? Parce que Ve'ahavta, on a dit Ahava, c'est valeur numérique 13, c'est aimer. Et c'est la même valeur numérique que Echad, c'est un. Donc il n'y a pas écrit dans la Torah, tu aimeras. Comme ça a été repris il y a 2000 ans par une pop star. Pas du tout. Ils ont fait un tube avec ça. Tu aimeras. Il n'y a pas qui tu aimeras. Il y a qui tu feras un. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Parce que quand tu dis, tu traduis tu aimeras, donc qu'est-ce que tu dis? Eh bien tu dis, ben, j'aime pas. Voilà. Il y a des gens j'aime bien, il y a des gens j'aime pas. Mais il n'y a pas qui tu aimeras. Quand la Torah t'a dit, mais elle était filine, tu dis, non, mais j'aime pas la couleur noire. Non, mais on t'a pas demandé ton avis là. Il faut juste les mettre. Ukshartem otam. Tu dis, mais il faut aller au mikvé. Je supporte pas l'eau. Tu peux pas faire un mikvé à ultraviolet. On t'a pas demandé ton avis là. C'est marqué dans Rashi. Debrask. Tu trempes et c'est tout. Tu rentres dans l'eau. Donc quand la Torah est venue, elle t'a dit Ve'a afta et que tu traduis, tu feras un. Ça veut dire que toi, tu as une mitzvah positive de faire un avec l'autre. Maintenant, c'est quoi le contraire de faire un? C'est faire deux. Quels sont les symptômes qui apparaissent quand tu fais deux avec l'autre? L'oticum et l'otitor. Déjà, l'otisna est achicha. Tu ne haïras pas. On a expliqué. Sin'a, ça veut dire la haine. Ça vient du mot shnaim. C'est deux. Donc la Torah, elle t'a dit, ve'afta, tu feras un, et tu ne feras pas deux. C'est qu'il y a une mitzvah de lutter contre ce qui nous sépare. Je dois réfléchir. Maintenant, là, je pense que ma femme, c'est Hmara. Attention, ça nous sépare. Maintenant, là, je pense que je peux mentir à mon mari. Attention, ça te sépare. Là, je peux dire, tu vois, tu réfléchis. Tu dis, mais là, je me rappelle des mauvais souvenirs. Attention, ça nous sépare. Ah, tu sais, je vais venir en retard, alors que lui, il fait toujours attention à être à l'heure. Donc, ça nous sépare. Maintenant, je sais que ma femme, elle n'aime pas ça, mais je le fais quand même. Ça nous sépare. La Torah, elle t'a dit, ne fais pas deux. Là aussi, tu traduis. Toi, tu traduis en français, tu dis, ah, la Torah, elle dit, faut pas haïr. Vous savez, je la haïs pas. C'est pas Hashem que j'haïs ma femme, mais disons que je la méprise. Peut-être elle préférerait que tu la haïsses. Comprenez-vous? Quand tu traduis, tu ne feras pas deux, ça veut dire que tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous éloigne, tout ce qui crée une fracture, c'est interdit par la Torah. Et en double, que tu dois avoir une action dynamique de faire un, ve'ahavta, c'est mitzvat assez, oui, il faut y aller. Et d'un autre côté, il faut lutter contre ce qui nous sépare. Maintenant, les gens, ils cultivent la fracture, ouais, et ils ne font pas d'effort pour la combler. Après, ils te disent, eh ben, il y a une distance qui s'établit. Les sentiments ne sont plus là. On ne se comprend plus. On n'est pas dans le même monde. On n'a rien en commun. Mais commun, ça vient de commun. C'est ça, commun. On a en commun ce qu'on a mis en commun. Maintenant, c'est quoi le mettre en commun? C'est mettre avec l'intention de faire un. Tu vois, j'ai mis avec toi, avec un. C'est comme un contrat, même un contrat. Quand tu as signé, j'ai signé. Ça veut dire, écoute, moi j'ai mon fric, toi tu as ton fric. Maintenant, tu sais, je veux mettre l'argent en commun. Quand j'ai mis en commun, j'ai pas mis que l'argent en commun. J'ai mis la confiance en commun. J'ai mis les investissements en commun. J'ai mis l'avenir de ma boîte en commun. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, non. Tu t'arranges avec les syndics, mais tu es un voleur. Puisque moi, j'ai pas mis que de l'argent. Vous voyez cette logique là ou non? C'est pareil. Hier, j'ai discuté avec une dame. Elle m'a dit, écoutez, mon mari, voilà, il m'a trompé pendant des années. Et maintenant, il m'a donné le guet, mais il ne veut pas me donner le civil. Et il veut qu'on habite dans la même maison, parce que c'est lui qui paye le loyer, parce qu'il le prend de la société. Mais moi, je n'ai pas où aller. À 50 ans, je ne vais pas retourner chez ma mère. J'ai dit, j'ai du mal à suivre votre avalanche de lourdeur. J'ai pas compris. Vous êtes quoi? Votre mari vous trompe. Donc, en plus, il vous dit, t'es pas contente, c'est toi qui pars. Mais c'est lui qui est parti. Il doit rester dehors, puisqu'il est déjà dehors. Maintenant, il est revenu. Il dit, bon, on divorce, mais pour des questions pratiques, on divorce pas civilement. Donc, maintenant, ils vivent dans la même maison, mais ils sont divorcés. Je sais pas si vous voyez un peu l'air. Maintenant, elle doit aller vers l'indépendance. Mais c'est lui qui paye le loyer. Comment? Parce qu'il a déclaré dans sa société à lui. Ils sont séparés, mais mariés. Je dis, madame, il y a une décision à prendre. Dans toutes les décisions, il y a des choix. Et dans tous les choix, il y a des renoncements. Donc c'est quoi votre problème? Vous ne voulez pas renoncer? Quand tu vas à la mer, tu renonces à la montagne. Et quand tu vas à la montagne, tu renonces à ta mère. À la mer. D'accord. Cette logique-là, c'est quoi? C'est que quand il s'agit de faire un, il faut faire un, et quand il faut faire deux, il faut faire deux. Si vraiment cette personne, elle te déstabilise, si vraiment elle te détruit mentalement, si vraiment elle t'aspire au niveau de ton énergie, tu as le droit de dire stop. C'est l'exception qui confirme la règle. Beaucoup de gens, ils me disent, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire? Ma mère, à chaque fois qu'elle m'appelle, elle m'insulte, elle me détruit, elle me maudit, elle me déstabilise, et je suis mal et j'engueule ma famille pendant une semaine. Est-ce que c'est Kiboudavaim? Est-ce que je faute si je ne prends pas le téléphone? C'est une question, non? Ah, tu dis les parents, c'est les parents. Il faut les supporter. Bon, tu dois supporter les parents. Peut-être une fois par an. En tant que parent. Ou non. C'est tous les jours jusqu'à ce que tu meurs. Achète un tabouret et une corde, je vais te trouver une solution. Donc d'un côté, la Torah te dit faire un. Ouais. Mais encore une fois, faire un, ça veut dire qu'on part dans la même intention. Moi, je vais te faire grandir, toi, tu veux me faire grandir. Mais si l'autre, il n'a pas supporté déjà ta naissance, ouais, déjà dans le ventre, il y avait la haine, qu'elle n'était pas heureuse d'être enceinte. Et après que tu es née, pendant des années, elle t'a dit, je voulais un garçon, et que tu es une fille. Et après, elle t'a cassé, tu n'es pas capable, tu es nul, tu n'arriveras jamais. Alors, jusqu'à combien j'ai le droit d'être le corban rola, expiatoire? Et pire encore, et c'est là une autre encore, pareil, elle me dit, mais monsieur le rabbin, mon mari, des fois il me dit, eh ben t'es pas contente, va chez ta mère. Mais moi j'ai pas où aller, alors j'ai pas de force. Je dis, mais votre mère, c'est un plus, ça peut pas vous remplacer à vous. Ça s'appelle l'autonomie. Moi je suis bien, je suis construit, ouais, en tant que personne. Et en plus j'ai mes parents, en plus j'ai ma famille, en plus j'ai mes amis. Mais si moi je suis personne et que je n'existe que dans le miroir des yeux de l'autre, je vais avoir des problèmes. Puisque je te dis que toi tu réfléchis ta propre image et l'autre il réfléchit sa propre image. Après toi, pour t'arranger avec l'autre, tu essaies de comprendre l'image que l'autre il a. Mais si toi tu n'existes pas et que tu n'existes que dans les yeux des autres, tu vas avoir des problèmes dans la vie. Donc tous les complexes, les malaises, les peurs, les souffrances, ça vient de ça. C'est que je n'ai pas fabriqué ma propre image. Je ne l'ai pas fabriqué. Oui. J'ai pas assez de respect de moi-même, j'ai pas assez de valorisation personnelle pour dire, eh ben, je vais être ce que je dois être. Je vais faire ce que je dois faire. J'arrive pas. Alors, comment je vais justifier le fait que j'existe pas? Oui. Au lieu de dire, je vais trouver les forces pour exister, je vais expliquer que l'autre qui m'empêche d'exister. Ça va? C'est souvent le cas. Pire encore. Je peux même reprocher à l'autre de ne pas exister à ma place. C'est ça. Mais t'aurais pu, hein. C'était quoi pour toi? Eh ben, tu prenais le téléphone et tu le faisais. Tu peux t'arranger. Tu vas, tu lui demandes pardon de ma part. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. T'écris une lettre, tu fais. Attends, j'ai pas compris. Tu veux que j'existe à ta place? Bon, eh ben, t'as qu'à payer mes dettes. C'est quoi? Eh ben, vas-y, toi. Eh ben, garde la voiture. Ben, attends, c'est ta voiture. Ouais, ben, c'est sur ta conscience, hein, s'il y a un accident. Quoi? En plus, tu me rends ma conscience à moi? Pourquoi encore une fois? Parce que moi, quand j'ai pas fabriqué ma pièce de puzzle, moi je mets ma pièce de puzzle, toi tu mets ta pièce de puzzle. Maintenant, après, la Torah te dit, chacun fait sa pièce de puzzle, et après, on va coller les pièces. Et tu dis, mais j'ai pas envie de la faire ma pièce. ça vaut pas le coup. C'est compliqué d'assumer, d'exister, la maturité, d'aller au bout de ses choix, et tout ça, c'est difficile. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, au lieu de me remettre en cause, je vais remettre en cause l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette haine, cette rancune, cette vengeance, il faut qu'elle ait un espace pour pousser. D'où il vient l'espace? C'est l'espace que tu as fait autour. Alors, soit un espace temporel, ouais, comme elle a dit là, que comme j'ai du temps, il y a des gens comme ça, ils ont du temps pour se prendre la tête. J'ai dit une fois, je vous ai dit, la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. T'as une douleur, ouais. Tu as pris une claque, ça fait mal, ça fait très mal. Pendant 20 secondes, ça brûle. Pendant une demi-heure, tu sens la résonance dans les os. Comment ça se fait que 2 ans après, tu penses encore? On dirait que tu viens de l'avoir maintenant. Donc ça veut dire que les 2 ans de douleur, c'est toi qui les as fait. C'est que toi, tu as entretenu la chose. Maintenant, pour que ça tienne tellement longtemps, il fallait que tu n'aies rien à faire pendant 2 ans. Parce que si tu étais occupé, tu n'aurais pas eu le temps. Les gens, ils n'ont pas le temps. Qui c'est qui prend le temps? C'est pareil. Il faut un espace aussi. Un espace de vie. Il faut prendre un espace de vie pour se prendre la tête, pour s'angoisser, pour faire une belle dépression. Il faut de l'espace de vie. Mais il a pas le temps. Il se lève, il court, il travaille, il produit. Il a le résultat, il voit, il sourit, il se nourrit. Il ne peut pas. Il dit, non, tu sais, j'ai rien. Un jour, j'ai arrêté et j'ai contemplé. Et j'ai compris. Et il reste. Donc, j'ai créé un espace, temps, pour ma douleur. J'ai créé un espace pour ma douleur, et ma douleur, elle fructifie grâce à Dieu. Je l'arrose tous les jours, je la frotte, je la fais sortir, elle se développe. C'est pas ça que tu dois faire toi. Parce que ça s'appelle un lot tarassé. Lot tarassé dans la Torah, c'est chef ve'alta, c'est ne fais rien. Ne sois pas actif dans la négation. Lot tarassé. Sois actif dans le positif. Il est interdit d'être actif dans le négatif. Là j'ai un monsieur comme ça. Si on voit sa mort, il m'a dit, Ria, j'en peux plus, j'ai pas confiance, je suis nul. Écoute, je lui dis, écoute quoi. Je lui dis, tu sais que c'est marqué dans la Torah, Velo Tatoro, Achare, Levafrem, Vachare, Nechem. Vous savez ça, c'est écrit dans le schéma, il est interdit d'avoir des pensées obscènes. C'est assourd. Toutes les pensées dégueulasses, c'est assourd, ça veut ou non? Eh bien, quand quelqu'un s'angoisse, s'il est fragile au niveau de son angoisse, pour lui, Mina Torah, il n'a pas le droit de s'angoisser. Donc je lui dis, toi, maintenant, à partir de maintenant, tous les soirs, tu m'envoies un fax, tu m'envoies un email. Tu me marques tout ce que tu as fait de positif et combien de temps tu as réussi à lutter contre la négation. Parce qu'avant, il disait, bon, j'ai fait ce projet, mais j'ai réussi à moitié. Je suis gentil, mais pas avec ma famille. Tu vois, donc, je fais un gâteau, mais je fais pipi dedans. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pourris. Après, tu dis, tu sais, j'ai rien. Je me sens pas bien, je me sens faible. Mais c'est normal, le cumul de la négation, il peut pas donner du positif. Moins par moins, ça fait plus. Mais moins plus moins, ça fait moins. Si tu t'opposes au négatif, ça fait du positif. Mais si tu cumules le négatif, ça fait que du négatif. Alors les gens disent, ben oui, mais ça fait du bien d'en parler. Depuis quand quelqu'un qui pleure toute la journée, ça lui, à la fin, il a sourire. Si tu pleures pour que ça sorte, si tu parles pour que ça sorte, donc tu te désolidarises de ta douleur, donc tu vas mieux, t'avais un truc là. Quand tu vomis, ça fait du bien, tu dis. Ouf, ça m'a fait du bien, je m'excuse, j'ai vomi, mais ça m'a fait du bien. Et bien quand tu parles, c'est comme vomir. Mais c'est seulement si tu vomis pour te débarrasser. Mais si tu vomis pour conserver, ou pire, pour remanger, pour ressasser, pour cultiver, mais t'es vicieux toi. Et c'est un interdit de la Torah. Que quoi? Donc toi, tu as une mitzvah d'entretenir ton moral. Est-ce que quelqu'un va dire, mais on peut pas. On peut pas lutter contre les mauvaises pensées. Ça n'existe pas. Les mauvaises pensées, c'est une mauvaise pensée. T'as raison. Il n'y a pas un interdit dans la Torah d'avoir des mauvaises pensées. Vous savez ça. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de les entretenir. Parce que la mauvaise pensée, c'est le Satan qui t'envoie. Il t'envoie une mauvaise pensée. Il t'envoie une image dégoûtante. Ouais. Lui, il t'envoie. C'est une proposition. Maintenant, quand il t'envoie, tu as les frontières de ta dignité qui te disent « Je veux pas que ça rentre. » Ouais. Comprenez ou non? Alors, si tu ne fais pas rentrer l'idée en toi, Et si tu ne reviens pas dessus, tu n'as pas transgressé. Mais si tu entretiens l'idée, tu as transgressé. Maintenant, des fois, tu vois, tu fais l'otatouro acharin evachem acharinechem sur ton fils, sur ta fille. De toute façon, elle est nulle. De toute façon, elle comprend rien. De toute façon, elle est bête. De toute façon, elle n'est pas comme j'attendais. De toute façon, je suis déçu. Attention là. Parce que là, tu es en train de visiter un pays interdit. Velo tatouro acharin. Maintenant que tu as installé une image négative d'elle, après tu dis c'est marrant, j'ai pas de force pour l'encourager, j'ai pas de projet pour elle. Mais c'est normal, tu es la pourrie. Dans ta tête. Maintenant, quelle différence entre pourrir l'image que j'ai de l'autre ou pourrir sa propre image? Il n'y a pas de différence. Ça va ou non?
Ouais.
Je pourris l'image que j'ai de l'autre. Donc, je n'ai plus à investir chez l'autre. Mais quand j'ai pourri ma propre image, je n'ai plus envie d'investir chez l'autre. Alors, moi, je suis en train de parler avec vous que le puzzle, c'est quoi? Que moi, je dois faire ma pièce et après, j'essaie de coller avec la pièce de l'autre. Mais la Torah, elle a été plus loin. Là, tu n'as pas compris. C'est le même puzzle. Ça va? C'est le même. En vérité, c'est pas ta pièce à toi dans le puzzle de la vie. Toi, Am Israël, c'est un seul puzzle. Pour ça, on dit, il manque un du Am Israël, tout le monde est en deuil. Tout le monde. Pourquoi t'es touché? Voilà, il y a une jeune fille à Paris, là. Il y a 3-4 jours. 19 ans, accident de voiture, elle est mystérieuse. Une gentille Nina. Tu vois tous les emails, tu vois tous les Facebook, tous les messages. On a de la peine, on allume des nérotes. C'est pas ta sœur, c'est pas ta cousine. Pourquoi tu te remues comme ça? En vérité, dans l'absolu, de l'extérieur, ça ressemble un petit peu à de la solidarité nationale, mais le fond, c'est que tout Israël, c'est une seule Neshama. Donc quand tu prends un bout de Neshama, c'est pas un bout, puisque chaque bout, c'est de l'infini. Maintenant, quand tu cumules de l'infini, ça fait pas un gros morceau, ça fait de l'infini. Donc c'est ça le problème. Que chaque personne en vérité doit comprendre que quand Hachem il a demandé Ve'a Afta, tu feras un, oui, c'est qu'en vérité on fait un déjà. On a seulement besoin de réaliser ce qu'on est vraiment. On est un, mais nous on ne le réalise pas. Pourquoi? Parce qu'on confond nos intérêts personnels, oui, et nos personnalités. Donc comme nous n'avons pas les mêmes intérêts, parce que c'est ton fric, c'est mon fric, c'est ma maison. Mais tu vois, alors, allez-nous, quand il y avait la haine entre nous, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie la Sina, il envoie la Galoute. Dans la Galoute, maintenant, tous les Juifs, ils sont renvoyés. Maintenant, ils sont tous esclaves. Tu dis, mais tu sais, à Jérusalem, j'avais un palais avec 50 millions de serviteurs. Ben maintenant, on est les deux dans la même galère, là-bas. On est les deux jetés à Amsterdam, on n'a même pas où dormir. Là, je suis en train encore de lire un livre sur Treblinka. Je vous ai dit que j'ai lu beaucoup de livres sur la guerre. Il raconte ça. Il raconte le mec, il était milliardaire, il était banquier en Argentine. Ouais. Il est revenu pour voir ses parents à Varsovie. Manque de peau, la guerre est déclarée, il ne peut plus sortir. Lui, il s'en fichait parce qu'il avait un passeport. Ils lui ont volé le passeport. Ils l'ont mis dans les wagons. Il s'est retrouvé à Treblinka. Mais d'un côté de lui, il y avait un clochard. Il le connaissait du ghetto, c'était le clochard du ghetto. Mais lui, il a sa villa à Buenos Aires. Il a sa plage privée. Les deux, ils sont pareils. Maintenant, pourquoi, comment ça marche, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, c'est, il y a un million de choses à réfléchir. Mais une chose qui est sûre, c'est que maintenant, ce que tu croyais être différent, t'es le même. Tu croyais que t'étais différent, t'es pareil. T'as le même problème, ça va maintenant. T'as la dignité, t'as pas la dignité, tu vas tuer l'autre pour lui prendre son pain. Mais je comprends pas, mais j'ai une usine de pain. Maintenant, je suis en train de voler le pain. Oui, quand t'as une usine de pain, tu peux pas savoir exactement quel est ton niveau d'honnêteté ou quel est ton niveau de solidarité. Mais là, quand il y a un bout de pain et que l'autre il est en train de mourir, tu vas lui prendre le bout de pain? Il dort, tu vas lui prendre le bout de pain? Ou ta dignité, elle va dire non, je ne lui prends pas le bout de pain. C'est là que tu peux mesurer. Parce que c'est facile d'être généreux quand on a trop. C'est difficile, c'est généreux quand on n'a pas. Alors là, tu vas mesurer tout le monde au même niveau. Un petit truc, un petit bol avec de l'eau dedans et une tranche de pain. Et l'autre il dit je garde le pain pour demain et toi tu lui voles. Et tu sais que s'il ne mange pas il va mourir. Et tu lui voles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps c'est un laboratoire de l'horreur et en même temps c'est un laboratoire de la réalité. Bon et si quelqu'un il est trop traumatisé, la maladie c'est pareil. Alors allez-nous, le type il est milliardaire, il a un cancer. L'autre il est clochard, il a un cancer. Les deux ils se retrouvent à l'hôpital. Eh bien ils sont pareils. Je me suis dit, mais tu sais, grâce à Dieu, j'ai des milliards. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
C'est la... Il n'y a pas une chimio pour les riches et une chimio pour les pauvres. C'est la même chimio. Et encore, peut-être que l'autre qui a grandi dans la rue, il est plus fort pour assumer. Alors que toi qui as grandi dans l'air conditionné, peut-être tu n'es pas conditionné pour absorber ce genre d'air. L'air de rien. Il fallait mieux être un clochard. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que plus que toi tu crois que tu n'as pas besoin de l'autre, et plus le bon Dieu il va t'envoyer l'autre. Et plus que tu crois que l'autre il va te faire du mal, et plus le bon Dieu il va t'envoyer des gens pour faire un avec toi. Pour faire un avec toi. Pourquoi? Parce que ce que l'égoïsme ils appellent le tissu social. Mais il faut le tisser le tissu. Il faut le faire. Tu mets les fils, tu mets les fils, tu mets les fils, tu mets les fils, on fait le tissu. Et bien là, la Torah, elle a dit, c'est une mitzvah de faire ce fil-là. Déjà avec Bene Amecha, déjà avec ton peuple. C'est une mitzvah. On n'a rien à voir, nous les Tunisiens, et les Égyptiens, et les Libyens, et les... on n'a pas les mêmes inagis, on n'a pas la mentalité, on n'a pas le même truc. Je te dis, les nazis acceptaient tout le monde. Ils n'ont pas fait de différence. Tu es riche, tu es pauvre, tu es polonais, tchécoslovaque, français, vous êtes juif. Beruchim Abaim. Alors comment toi tu veux? Comment toi tu vas refuser? Donc la Torah, elle demande à l'autre. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que pour se rapprocher de l'autre, oui, il faut sacrifier ce qui nous sépare. Regardez ce qu'il dit Rav Shimshon Rafael Hirsch. Chiyuv le'etiv ish imreu. C'est une obligation de faire du bien à son ami. C'est écrit dans la Torah, ouais. Mitzvat chesed. Ve'ata Hashem mevakesh lishlot. Maintenant, la Torah, elle a demandé que nous maîtrisions, nous gouvernions, nous régnions sur nos sentiments. Vekach nitrayavnu, les avis à korban à cacher beyoter. Et maintenant, la Torah nous a demandé d'amener le sacrifice le plus dur à amener. C'est quoi? Les avir milibenu, kol regesh nekima venetira. D'enlever de notre cœur tout sentiment de vengeance et de rancune. Vezé, regardez ce qu'il dit, vezé bgia bekavod. Maintenant, Hachem, il t'a dit, tu donnes l'argent aux autres, c'est bien. Tu donnes du temps, c'est bien. Maintenant, la Torah, elle t'a dit, donne ton kavod. T'es prêt à donner ton kavod? C'est trop. Pourquoi? Parce qu'on a dit, comme le titre, il est sur qui? Il est sur celui, envers celui qui t'a rien fait. Donc, il t'a fait quoi, en fait? Il t'a manqué de kavod. Parce que c'est quoi le kavod? Les gens, le kavod, ils croient, c'est l'honneur, c'est le respect qui m'est dû, c'est le respect qui est dû à mon rang. Mais non, c'est quoi le kavod? C'est très simple. Le kavod, c'est l'espace dans lequel se projette ta volonté. Par exemple, moi je suis là, je parle, vous me faites kavod. Maintenant, si moi je parle pas, vous parlez pas. On est comme ça tous les deux. Il n'y a pas de kavod. Maintenant, si vous me laissez parler, ma parole, c'est l'expression de ma volonté. Donc, puisque moi je peux exprimer ma volonté, oui, l'espace que vous avez créé en m'écoutant pour que j'exprime ma volonté s'appelle le kavod. Donc le kavod s'appelle le droit d'être que je donne à l'autre. Ça va? C'est bon ou non? Maintenant, quand toi tu fais kavod à ton fils, tu le laisses parler. Tu dis, mais je sais ce qu'il va dire. C'est pas grave, laisse-le exister. Si tu... Bon, écoute, tiens, voilà, je sais où tu vas en venir, tu m'as saoulé, t'arrêtes pas de répéter, alors il fait comme ça, il est là. Après, il dégaille. Parce qu'il a jamais eu d'espace pour exister. Fais du kavod. Fais kavod à ta femme, tu rentres à la maison, tu l'écoutes. Bonjour, comment ça a été chérie? Vas-y, raconte. Alors elle raconte. C'est des lourdeurs. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Elle a passé une heure dans les embouteillages. Mais bien sûr, on s'en contre-tape. C'est vrai? Mais le problème, c'est quoi? Si alors, maintenant, il faut bien qu'on superpose les calques. Vous savez, une bande sonore, une bande, elle est coupée. Comment on fait pour les coller? On est obligé de les superposer. Donc tu vas laisser parler ta femme. Toi aussi, tu vas parler, et hop, on reprend le contact, et on redémarre une soirée. Le matin, on se réveille. Bonjour chérie, comment c'était? Voilà, hop, on colle, et hop, on redémarre. Ton fils, c'est pareil, tu l'écoutes, il t'écoute, hop, on redémarre. Je dis, non, on va se coller comme ça. Comme ça. Ouais. Mais si on est collé comme ça, on n'a rien en commun. Comme des collègues de bureau. Bonjour, on y va. Bon. Vous avez lu le dossier? Non, c'est pas bon. À demain. Vous quittez l'entreprise? Ah bah écoutez, à bientôt. Bah ça fait quand même 18 ans qu'on travaille ensemble. Vous savez, on reste des outils de travail. Allez, à bientôt. Ouais, j'ai de la peine quand j'ai une imprimante. Alors, si tu quittes un collègue comme ça, tu peux dire à la limite c'est pas grave, bien qu'il y a quand même des amitiés qui se lient.
Ouais. Mais si tu quittes ta femme comme ça, hein, la vieille machine à laver, pour une poule pondeuse. Donc elle a pondu, elle a pondu. Et maintenant, on va manger la poule maintenant qu'elle est vieille. Il faut superposer. Tu dis, mais comment je vais faire pour faire kavod? Eh ben papa, tu vas comprendre. Comment Hachem fait kavod? Parce que si le kavod, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre. Donc quand on fait kavod à Hachem, en fait, on fait exister Hachem. Ça va? Maintenant, lui, il fait exister tout le monde, puisqu'il s'appelle Melech HaKavod. Maintenant, comment Hachem fait exister tout le monde? Parce qu'il s'est retiré du monde. Il te laisse. Tu sais, quelqu'un est venu chez moi un jour. Il m'a dit, monsieur le rabbin, voyez bien, moi, par exemple, il m'a dit, par exemple, moi, je crois pas en Dieu. Je fais des bêtises, je fais des avérotes. Je dis, mais Dieu merci. Il m'a dit, quoi? Je dis, Dieu merci. Dieu merci que tu peux. Regarde, par exemple, si tu prends de l'acide chlorhydrique, ouais, tu dis, je le bois ou je le bois pas? Je le bois. Ben, quand tu le bois, baba, d'abord, tu n'as plus de problème de digestion. Tu fais des économies extraordinaires puisque tout le repas, quand tu te lèves, il est sur la chaise. Ouais. Tu dis, mais c'est irréversible. Donc c'est extraordinaire que le bon Dieu, il te laisse avaler la Avera, le Hilul Shabbat, le Hilul Kippour. Et tu es vivant, tu n'as rien. Mais quelle patience! Quelle puissance! Les gens disent, mais c'est pas vrai. Si Dieu était fort, il nous aurait massacrés. Mais chez nous, la Torah, la puissance, c'est pas une puissance exprimée, c'est une puissance retenue. Ezeu Gibor, à Kovesh et Titro. Ouais, au contraire, dans la rue, le Gibor, c'est celui qui laisse. Ils te disent les psychologues, te disent, mais laissez votre instinct, l'instinct animal, vas-y, à quatre pattes. L'instinct brutal, l'instinct du chien, vas-y. Et nous, au contraire, nous on dit, retiens le chien qui est en toi, retiens le menteur, retiens le voleur. Tu vas dire, mais alors à ce moment-là, alors faut s'annihiler, quoi. Faut pas s'écouter, faut pas vivre, on s'étouffe avec vous. Non, parce que nous on a un chidouche incroyable. C'est que quand quelqu'un retient une négation, il dégage une énergie positive. Quand il retient, dans le monde, c'est pas comme ça. Si par exemple vous allez au commissariat, vous dites, voilà monsieur le commissaire, tout à l'heure j'étais dans le métro, il y avait une vieille femme, très riche, elle avait son sac ouvert, il y avait le portefeuille, il y avait que des billets de 500 qui sortaient. Et elle était à côté de moi, il était ouvert, j'ai mis la main, je l'ai touché, je l'ai pas pris. Je demande la médaille du mérite de la ville de Milan. Il a dit, déjà estime-toi heureux que je ne te mets pas à l'asile psychiatrique de Milan. Et bien dans la Torah, ouais, dans la Torah, quand vous faites un acte positif, la Torah vous récompense. Et quand vous ne faites pas un acte négatif, la Torah vous récompense. Tu dis, mais attends, mais quand j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que l'effort que tu as produit pour te retenir, il dégage une énergie positive. Par exemple, quand tu connais la réponse et que tu ne la donnes pas à ton fils, toi tu dis, ben ouais, mais je ne l'ai pas aidé. Non, c'est faux. Parce que la retenue que tu as fait, le sacrifice que tu as fait de ne pas lui dire, ça fait que lui, il tend vers l'autonomie. Il va devenir autonome. Ouais. Et si tu dis, non, j'ai de la peine pour lui, je vais l'aider, je vais le faire à sa place. Tu vois, des mamans à deux. Alors, mon fils, alors, comment il s'appelait la femme de Abraham? Ça. Al-Sara, comment elle s'appelle? Non, tu commences à s'appeler la femme Abraham. Aloti. T'as pas un petit indice? Tu peux pas m'aider? Dis-moi au moins trois lettres. Les trois premières. C'est marqué Mishen Bodarat, Asur les Rachem Alav. Celui qui n'a pas de conscience, il est interdit d'avoir pitié de lui. Je lui dis, mais c'est mon fils. Si moi j'ai pas pitié, qui aura pitié? T'as pas compris que la Rachmanout, la miséricorde, pour les gens qui n'ont pas de da'at, ça veut dire que c'est toi qui va remplacer leur da'at. Donc lui, pourquoi il va développer sa maturité puisqu'il sait qu'il peut compter sur la tienne? Donc en étant trop miséricordieux, tu le rembrelles. C'est comme si tu mets, par exemple, le gosse, il ne veut pas mettre ses chaussures, tu sais pas grave, mon fils, je vais mettre mes mains, tu peux marcher dessus. Vous imaginez ça? Ton fils, il dit, oh maman, j'ai la flemme de mettre le basket. Mais c'est pas grave, chérie, mon cœur, mon amour, je t'accompagne, je mets mes mains par terre et tu marches sur les mains. On peut faire ça? Oui, non. Oui ou non? Je sais pas si quelqu'un il aime vraiment son fils.
Il peut le faire. Dans la boue, dans le parterre, en caniveau, par un mot pour se bénir. Oui, non, oui. On peut pas, c'est sûr. Ah ben, quelle différence de mentir sur le livret pour de faire un mot alors qu'il est en retard. Il veut pas se lever. Tu dis, mais fais-moi un mot, maman dit que j'étais malade. Mon fils, ce matin, n'a pas voulu se lever, c'est un grand flemmard, que Dieu le pardonne. Mais je ne vais pas donner ça! Oui, mais l'année demain, tu vas te lever. Non, tu te débrouilles. Dobrask. Mon fils, le pauvre, il a 8 ans, 12 ans. Il dit, papa, mamie m'a donné 30 euros pour je ne sais plus quelle fête. Il me dit, je les ai perdus. Il me dit, je les ai emmenés, j'ai dit, peut-être que je vais avoir besoin, je les ai perdus. Il dit, tu peux me les rendre? Mon fils. Il m'a dit, mais j'ai besoin. Non, si tu as besoin, je te donne. Mais l'argent que tu as perdu, je ne vais pas te le rendre. Ah, papa, c'est quoi 30 euros?
C'est rien. C'est rien.
Mamie, elle t'a donné 30 euros. Elle t'a donné 30 euros. Toi, tu dois faire attention aux 30 euros. Tu ne fais pas attention aux 30 euros? Il n'y a pas d'assurance sur les pertes. Si tu t'habitues que ton père, c'est l'assurance sur les pertes, tu dis, tu sais ce que je vais faire? Je vais perdre. Puisque j'ai une assurance. Parce que sinon, à 35 ans, tu vas venir, tu vas me dire, papa, ma femme, je l'ai insultée hier. Tu peux pas l'appeler? Je te dis, il n'y a pas d'assurance sur les mauvaises midotes. Tu prends ton téléphone et tu t'excuses. Il n'y a pas d'assurance. Il fait froid. Mets ton manteau. Il pleut. Prends un parapluie. Tu peux pas m'accompagner, non? Nous, on était très durs avec nos enfants. Je me rappelle, on les voyait partir, les 5, en se tenant la main comme ça, dans la neige. La plus grande, elle avait 6 ans. Ça. Il me disait rien, c'est honteux, non? Je dis, laisse-le. Aujourd'hui, il marche dans la neige. Fais attention en traversant, tu vas voir. Tu vas voir, à 16 ans, ils vont créer une entreprise. L'autre, il a 19 ans, tu le déposes devant la porte. J'ai peur d'attraper une micro-bronchite. Hein. L'handicap est mental. Qu'est-ce que tu veux fabriquer? Tu veux fabriquer des handicapés ou non? Maintenant, quelle différence? Comment est-ce que toi, tu mets les gens en situation? Comment Hachem, il met les hommes en situation? Alors maintenant, quand toi, ton père, il te fait pas ce que t'attendais, t'es déçu. Mais t'es déçu de quoi, c'est ton père? Alors quand Dieu te fait pas ce que t'attendais, t'es déçu de qui t'a donné la vie? C'est ça notre problème. C'est que quand nous, on veut pas assumer nos obligations à nous, on se fabrique des scénarios justificatifs. Ça s'appelle la haine, ça s'appelle la rancune, ça s'appelle la vengeance. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il m'a rien fait. Il m'a pas rendu service. Ça veut dire que moi, j'avais fait le plan. J'ai dit bon... Dimanche je fais ça, lundi je fais ça, mardi je fais ça, mercredi je fais ça. Et mercredi, j'avais dit, c'est toi qui vas venir avec moi pour ranger la cabane. Mais toi, malheureusement, t'avais autre chose à faire. Malheureusement. Oui. Donc, moi j'ai dit, je suis très déçu que tu m'as refusé. Donc ça veut dire que moi je pense que quand j'ai un projet existentiel personnel, l'autre, il est impliqué dedans. La preuve, je suis déçu. Maintenant, la Torah, elle t'a dit, c'est pas seulement que tu n'as pas le droit de crier, c'est pas seulement que tu n'as pas le droit de lui dire, tu n'as même pas le droit de lui en vouloir. Tu sais pourquoi? Parce que le temps que tu passes à lui en vouloir, c'est une voie de garage, c'est pas un temps que tu essaies de trouver une solution. Parce que ce temps-là, tu dis, eh ben tu verras ce que je vais lui faire, et tu verras ce que je vais lui dire, et tu verras. Mais pendant tout ce temps-là, tu pouvais trouver une solution à ton problème. C'est toi qui t'es rendu handicapé en pensant que la solution ne pouvait venir que par l'autre. Mais bon Dieu a créé l'autonomie. C'est toi qui dois être autonome. Ouais, l'homme, il est vivant parce qu'il est autonome. C'est quoi la dépendance? C'est la mort. Un cadavre, il est mort, il est dépendant. Donc toi, quand tu cherches la dépendance, ouais, tu cherches la mort. C'est pour ça que je vous ai dit, toujours cette blague-là, que quand tu vas voir chez quelqu'un, tu lui demandes, est-ce que tu peux me rendre service? Tu dis, est-ce que oui ou non, tu peux venir dimanche? Ouais. Donc comment ça se fait que quand il dit non, t'es déçu? Puisque t'as posé la question. T'as dit oui ou non. Donc en vérité, c'est l'inverse. Si t'as décidé qu'il doit dire oui, et t'as déjà fait dans ton plan que l'autre il doit dire oui, donc maintenant qu'il a dit non, il t'a déçu. Tu dis, mais où est-ce que t'as eu cette route, pas cette insolence de penser que l'autre il n'avait pas le droit de dire non? Alors toi tu dis, soit parce que tu pensais que ton projet à toi il était plus important que le sien, soit pire encore, c'est qu'avec tout ce que je lui ai fait, il me doit bien ça. Donc là, ça veut dire que... Moi, je croyais que tu m'avais rendu service. En vérité, tu m'as acheté. Je
ne sais pas si vous me suivez.
Je te rends service, mais je sais qu'un jour... Donc, j'ai investi. J'ai acheté des actions là, Et un jour, je lui ai dit, les royalties, s'il vous plaît. En fin d'année. Ah, moi, je croyais que c'était du recède. Là, c'est de l'investissement. Alors, puisque moi, je me suis trompé, au lieu de donner, j'ai investi. Mais quand tu investis, ça va bien que tu investis sur un animal, tu investis sur une société. C'est une personne morale. Mais là, c'est une personne réelle. Donc, quand toi, tu es déçu de la personne, c'est que toi, tu pensais que l'autre, il existait pour toi. C'est pour ça que tu es déçu. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement ton ego, tu ne l'as pas annulé pour l'autre, mais ton ego, tu l'as étendu à l'autre, puisque tu penses que l'autre, c'est toi. Que l'autre, il doit penser comme toi, que l'autre, il doit aller dans ton sens à toi, que l'autre, il doit exister pour toi. C'est incroyable. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est déçu. Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Ouais, je te rends compte, qu'est-ce que c'était? Et pourquoi tu n'es pas venu? Et pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Mais peut-être que j'étais occupé, peut-être que j'avais des choses à faire. Je sais pas, tu me connais, je suis pas méchant, je suis pas vicieux, je suis pas pervers. Pourquoi tu t'imagines? Ouais, de toute façon, je suis sûr, t'es malade, t'es, vous êtes tous des fous. Je vous dis la vérité. Mais ça reste entre nous. Hein. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche à lui-même, vous écoutez le reproche qu'il vous fait. Tu sais pourquoi? Parce que quand moi, je ne veux pas réfléchir dans ma tête, je réfléchis dans la tête de l'autre. Donc ma vie, au lieu de la regarder avec mes yeux à moi, je regarde l'autre, je dis, c'est toi qui conduis, mais c'est ta voiture, c'est toi qui conduis. Ça va? Ça va ou non? Ça va. Bon, on recommence. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a les deux yeux, d'accord? Un œil voit ça. Maintenant, la forma, c'est quoi? C'est que normalement, il y a une seule tête avec deux yeux et un logiciel qui fait les yeux. Ah ouais? Maintenant, si je dis que Kol Israël Amechad, c'est qu'en vérité, l'œil de l'autre et le mien, c'est un. Donc en vérité, on vit la même vie tous les deux. Maintenant, plus forte raison, si on s'est marié, comment on peut se déchirer la tronche alors qu'on fait des enfants ensemble? Donc, où est le logiciel qui mélange les deux images? Donc moi, en vérité, le problème que j'ai avec l'autre, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle le piroud, j'ai fait la séparation. Maintenant, comment il se caractérise, le piroud? Comment il s'entretient? Comment il se maintient? À cause de ça, c'est cette énergie-là, l'oticom. Oui, je vais me venger, donc je garde la distance. Et l'otitor, je vais garder dans mon cœur, donc je garde la distance. L'otisné, je vais faire deux avec toi, donc je garde la distance. Tout ça, c'est les symptômes. C'est-à-dire que quand la Torah t'a dit de faire un, tu n'as jamais eu de problème avec les gens avec qui t'es collé. La distance, elle vient toujours. C'est la distance qui crée les problèmes. Regarde, même un meuble. Vous n'avez pas vu un meuble? Ouais, il avait un bois comme ça. Il a bien, bien mis. Ouais. Après, tu vois, ça bouge un peu. Alors, tu dis, vous savez que de temps en temps, il faut revisser les vis parce que le bois, il est vivant. Ouais. Mais quand il bouge le meuble, t'as pas vu qu'il s'abîme? Après, tu le tires une fois, tu le tires deux fois, il tombe. Tu dis, ah, c'est quoi cette qualité? Monsieur, on vous a dit, le bois, il est vivant. Donc, une fois par an, il faut revisser les vis. C'est pareil. Toi et ta femme, il faut revisser les vis. Ah, ça bouge, ça se casse. Toi et ton fils, tu resserres les... On dit en français, tu resserres les liens. Comment on appelle resserrer les liens en hébreu? Ve'afta. Comprenez ou non? Faites un. Mais il faut le faire. Je l'ai pas fait. Alors quand je l'ai pas fait, tu sais ce que je fais quand je l'ai pas fait? Au lieu de dire, eh ben écoute, je l'ai pas fait, je vais le faire. Je dis, ben tu sais, ben... Ah, mais c'est pour ça que tu fais ça. Et c'est pour ça que tu fais ça. En fin de compte, ce que je fabrique un scénario pour expliquer, pour justifier pourquoi je ne l'ai pas fait. C'est comme si quelqu'un, tu lui dis, passe l'aspirateur, il n'a pas passé l'aspirateur. Après, il dit, ouais, de toute façon, j'aurais pu passer le balai, et pourquoi c'est à moi de passer l'aspirateur? Alors pourquoi je paye une bonne? Écoute, ne t'énerve pas. Je t'ai demandé, est-ce que tu peux passer l'aspirateur? Tu m'as dit oui. C'est tout. Maintenant, comme tu ne l'as pas fait, parce que tu as oublié, ou parce que tu avais la flemme, maintenant tu es en train de me fabriquer tout un balagan pour expliquer pourquoi tu ne l'as pas passé. C'est pas grave! Je t'aime, je t'adore, c'est pas grave, on est bien. Mais ne pars pas dans un délire que je t'ai obligé à le passer et que tu payes la bonne pour rien. Tu vois, t'es parti dans un délire. C'est-à-dire que toi, t'es en train de fabriquer une séparation entre toi et moi, alors que moi, je t'ai demandé, tu veux, tu m'as dit oui. Si tu dis non, il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions. Eh bien, vous voyez toutes ces pollutions qui rentrent, ouais. Comme quand tu vois, par exemple, les miettes qui sont en dessous le frigo, quand tu tires un peu ça, tu dis, mais comment elles sont rentrées? Mais comment la poussière, elle rentre entre les meubles? Il y a de la place. Ça va? Tu n'as pas de poussière? Laisse pas de place. Piroud, ouais, pollution. Quand tu fais une séparation entre toi et ton éphèche, la toumelle rentre. Entre toi et ta neshama, la toumelle rentre. Entre toi et la Torah, la toumelle rentre. C'est rien que la distance. C'est tout. Si tu es collé comme ça avec Hachem, comment il rentre la toumelle? Si tu es collé avec la Torah, comment elle rentre la pensée universelle? Tu es collé. Tu n'as pas besoin. Moi, je vois, les gens me disent, mais vous répondez à des questions profanes alors que vous n'avez pas fait d'études. Je dis, mais Barca, Baba, tout est marqué. Que toi, tu ne comprends pas la Torah avec les mathématiques, c'est normal. Mais que moi, je comprends les mathématiques avec la Torah, c'est normal. Mais il faut être collé. Si tu n'es pas collé, tu crées un espace. Dans l'espace, il rentre. Il rentre les pollutions, il rentre les problèmes. Donc la Torah, quand elle t'a dit l'oticom, l'otitor, l'otisme, elle t'a dit ne crée pas un espace pour des pollutions que tu ne pourras pas assumer de toute façon. Et ça, c'est ça la tentation. La tentation, c'est de croire que le mensonge, c'est plus efficace que la vérité. C'est de croire que la haine, elle se justifie. C'est de croire que les événements, ils se justifient. Regardez, je vous dis un truc très grave. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes capable de l'accepter. Tu vois, par exemple, des fois, les gens te disent. Je dis, pourquoi tu t'énerves? Il me dit, mais c'est normal que je m'énerve. Parce qu'elle m'énerve. Vous comprenez, vous? Je dis, pourquoi tu t'énerves avec les enfants? Ben, ils m'énervent, les enfants. Ah. Pourquoi tu t'énerves avec ta femme, avec ton mari? Parce qu'ils m'énervent. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. C'est un peu dur. Hein. Qui t'a dit que le fait que l'autre soit énervant, c'est une permission de s'énerver? D'où ça sort? Comprenez ou non? Là, tu te dis, bon, je sais que ça pourrit l'atmosphère, je sais que ça casse l'ambiance, je sais que ça stresse les enfants, mais comme ils m'énervent, je m'énerve. Donc toi, tu confonds avec un phénomène naturel qui s'appelle la causalité. Quand il pleut, t'es mouillé. Comprenez ou non? Quand il fait froid, tu as froid. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sors tout nu quand il fait froid? Tu dis, non, je mets un manteau. Et quand il pleut, qu'est-ce que tu fais? Je prends un parapluie. Ah, pourquoi quand les gens t'énervent, tu t'énerves? T'as qu'à mettre des amortisseurs à midot. Donc, il faut prendre le problème à l'envers. C'est vachement confortable d'avoir des gens qui nous énervent quand on a envie de s'énerver. La preuve, c'est que les gens qui aiment s'énerver et qui ont personne qui les énerve, ils s'énervent tout seuls. Ou alors ils te poussent à bout, comme ça après ils peuvent dire tu m'as énervé. Faudrait peut-être faire l'inverse. Faudrait peut-être dire, je viens pour construire, je viens pour être positif, je viens pour être adulte, je viens pour évoluer. Il n'y a pas d'espace. Mais si je viens pour rien, ou je viens pour faire la pagaille, il y a chemin comme. Il y a de la place. Donc tu vois bien que quand tu n'es pas dans une dynamique positive, ouais, tu vas créer des problèmes. Il s'appelle Mevakesh Hashem. Celui qui cherche Hashem, il n'a pas de problème. Celui qui cherche la vérité, il n'a pas de problème. Mais celui qui cherche rien, ou qui cherche le contraire, il va avoir des problèmes. Tu cherches le mensonge. Encore une fois, jusqu'à quel âge on va te dire que le mensonge ne paye pas? Toi, tu crois encore. Tu dis, mais on peut, si on ment pour le shalom, et si on ment pour ça, et si on ment pour ça, et ben, on ment pour préserver l'autre, on ment. Mais l'autre, il veut savoir. Tu dis, mais non, c'est pour te préserver. Mais ça ne sert à rien. Tu fais la gueule toute la journée sous prétexte que tu as des problèmes au boulot. Dis-lui, écoute chérie, il faut qu'on pèse de 50% le train de vie, parce que j'arrive plus à suivre. Elle va dire, ah ouais, oui, et ben oui. Mais maintenant tu as compris. Alors elle va comprendre et toi, tu vas sentir la solidarité. Vous allez être bien. Vous allez être bien avec 50%. Non. Ou alors vous allez être mal avec 100%. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'il fasse la tronche toute la journée parce qu'il trouve que tu dépenses. Parce que lui, il sait combien ça coûte. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu crois qu'il gagne encore 20 000 euros. Mais il gagne 5 000. Voilà. Il va dire, bah, chérie, je te dis franchement, ça marche plus. Je prends 5 000. Voilà. J'ai 5 000. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais tu sais bien que j'ai besoin de mon standing. Et comment? Et j'ai la honte. Tout le monde achète du koukaï. Et moi, je vais acheter du tati. C'est comme tu veux, chérie. Maintenant, je peux me pendre. Tu prends l'assurance vie. Tu prends le paquet. Ou tu vas avoir un mari souriant à la maison. Je sais que le sacrifice va être difficile. Comment on va dire du prévenir? Donc, c'est quoi l'idée? Je rigole. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, en vérité, elle a ça dans la tête. Est-ce qu'elle veut faire un avec l'autre ou est-ce qu'elle veut faire deux avec l'autre? D'accord? Donc ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quoi? C'est que si vous croyez en Dieu, vous savez que tout ce qui arrive vient de Dieu. Une fois, j'ai dit, il y avait un monsieur comme ça, un intellectuel, un peu scientifique. Il m'a dit, vous savez, on ne peut pas tomber d'accord, on n'a pas les mêmes angles de vue, on n'a pas les mêmes doctrines philosophiques. Je dis, écoutez, votre problème et mon problème, il est très simple. C'est un problème de géométrie. Mais dis bon, oui. Je dis, vous savez, entre deux points, on peut tracer un segment de droite. Oui. Maintenant, vous croyez que parce que vous avez un crayon, et que vous avez tracé un segment, ça veut dire que vous maîtrisez le segment, donc la droite est légitime. Mais nous, on dit non. Nous, on dit, entre deux points, on peut faire passer une droite. Maintenant, on sait que cette droite, elle continue jusqu'à l'infini, alors que vous, vous voulez l'arrêter à ce que vous comprenez, à ce que vous acceptez, à ce que vous maîtrisez. C'est ça la différence. La science, elle dit que la vie, c'est un segment de droite. Ça s'arrête où? Là où tu décides. Nous, on dit non, baba. Tu sais, la vie, elle va continuer après toi. Tu sais, les projets, ils sont plus grands que toi. Tu sais, les énergies, elles viennent de loin. Alors maintenant, non seulement que tu dois accepter que la droite, elle se prolonge après le point, mais en plus, tu dois accepter que même la droite, elle vient de loin. Elle vient avant le point. Vous comprenez ça? Ouais. Ça s'appelle Miché Chochmato. Miché Irato, Kodemet le Chochmato. Chochmato mitkayemet. Celui que sa crainte d'Hachem, elle passe avant sa chorma, s'accomplit. Nous, on aurait dit, mais non. Si la crainte, elle passe avant la sagesse, alors la crainte s'accomplit. Comme ça qu'on aurait dit. C'est là que tu vois la différence entre les chachamim et nous. Non. Irato, c'est quoi? C'est quoi irato et chochmato? Irato, c'est la relation que tu entretiens avec Hachem. Donc, si tu prends à cœur le projet d'Hachem, ça, c'est la droite. Chochmato, c'est ton projet personnel. Ça, c'est le segment. Toi, tu dis, moi, je travaille. Moi, je travaille. Vous savez, je suis un balabaït. Je travaille. Je fais des mitzvot. Mais moi, je travaille. D'accord. Alors, Hachem, tu dis, tu travailles? Travaille, c'est bien. Maintenant, dis-moi, puisque tu travailles, applique les lois du Shulchan Aruch. Ne mens pas, ne triche pas, ne vole pas, n'embrouille pas. Tu dis, mais c'est pas évident dans le commerce. C'est comme tu veux. Donc, il y a chochmato, irato. Maintenant, si tu arrives à mettre chochmato dans l'axe de irato, oui, chochmato, ton projet personnel, il va s'accomplir. Tu sais pourquoi? Il va s'accomplir. Ben c'est normal, parce que ton projet personnel, en vérité, dans l'univers cosmique, il n'a aucune valeur.
Zéro.
Qu'est-ce que c'est devant le bon Dieu? Mais si tu arrives à le faire rentrer dans le projet d'Hachem, parce que tu n'es pas en train de faire du commerce, tu es en train de faire un kiddush Hachem, quand tu arrives au salon de Taïwan, l'autre il dit, tu sais le type avec la kippa là, eh ben, je devais l'embrouiller de 15 000 euros, et il m'a dit, non monsieur, il y a une erreur. Et lui-même il m'a fait remarquer, regardez, dans vos tarifs, il y a une erreur. Il m'a fait gagner 15 000. Toi, tu crois que tu as économisé 15 000 ou tu lui as fait économiser 15 000. Non, pendant 10 ans, il va dire le hid, il est cachère. T'as fait kiddush Hachem. Donc ton business, en fin de compte, c'est devenu un distributeur de kiddush Hachem. Or, c'est quoi le kiddush Hachem? C'est faire grandir Hachem. C'est quoi Hachem? C'est la droite. Donc la droite, elle vient de loin et elle va très loin. Ouais. Alors moi, j'ai pris une image d'une droite. D'accord? Mais si on lui met une image de droite, oui, je te dis une image quand vous voyez une image devant vous, il y a des millions de pixels. D'accord? Imagine que pour fabriquer cette image, j'ai besoin de deux choses. Par exemple, là, vous voyez la couleur? Vous la voyez la couleur là ou non? Vous la voyez? D'accord? Donc, le type qui a fabriqué ce tissu, il a mis du fil Bordeaux. D'accord? Maintenant, moi, quand je le vois Bordeaux. Oui? Maintenant, le fil lui-même, il est Bordeaux. Et moi, je le vois Bordeaux. Maintenant, vous savez que la vision, c'est une longueur d'onde. La couleur, c'est une longueur d'onde. Donc, en vérité, il y a deux participants. Il y a, dans la vie, il y a le bon Dieu qui a créé une réalité et moi, la perception que j'ai de la réalité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je vous ai dit une droite, ouais, qui est un segment de droite sur une droite. Maintenant, je vais faire la même chose, mais au lieu de faire le point où je suis et le point qui est en face, je prends tous les points qu'il y a devant moi et le point où je suis. Vous comprenez pas? Une image, c'est des pixels. Vous savez ou non? Chaque pixel, c'est un point. Maintenant, moi, la perception de la réalité que j'ai, c'est des milliards de droites entre moi, ma conscience, et le pixel. Moi, le pixel. Moi, le pixel. Moi, le pixel. Vous comprenez ou non? Maintenant, si je dis que ça, c'est quoi? Ça s'appelle la réalité. C'est la réalité, d'accord? Mais c'est quoi la réalité? Ça s'appelle la Metsiout. Maintenant, c'est marqué que Hachem O.M. est un Metsiout. Hachem, il aime la réalité. Aimer, on a dit, c'est quoi aimer? C'est faire un. Donc ça veut dire que Dieu, il fait un avec la réalité. Par contre, c'est marqué que Dieu, il n'aime pas le gaspillage, il n'aime pas le néant, il n'aime pas la destruction. Donc ça veut dire que Dieu, il fait deux. Donc maintenant, c'est très simple. J'ai la réalité devant moi, mais la réalité devant moi, ça n'est que la projection de la volonté d'Hachem. Oui? Quand moi, je fais un avec ma réalité, je fais un avec la réalité d'Hachem. C'est bon? Maintenant, si je prends toutes ces droites qui sont tracées entre ma conscience et la réalité, donc c'est Hachem qui me propose quelque chose et moi qui propose quelque chose, et moi qui perçois cette chose. Maintenant, quelle différence entre le puzzle que j'écris entre moi et l'autre et le puzzle que je crée entre moi et Hachem? C'est la même chose. Surtout, surtout que dans ma réalité, il y a l'autre.
Il y a.
Il y a l'autre.
L'autre, c'est Hachem.
Non, mais l'autre, c'est Hachem. Donc ça veut dire que ma femme, en vérité, elle a une idée, et c'est Hachem qui lui donne l'idée pour qu'elle me la propose. Mon mari, c'est l'idée qu'Hachem lui a proposée. Mon enfant, c'est Hachem qui l'a envoyé. Le voisin, les amis, les ennemis. Donc est-ce que moi, je suis capable de faire un avec cette réalité pour la faire exister? Donc est-ce que je réfléchis Hachem dans la réalité ou non? Donc maintenant, je ne t'ai plus demandé de réfléchir seulement ton entourage. Je ne t'ai pas seulement demandé de réfléchir, pas de réfléchir, de réfléchir ta réalité. Je te dis réfléchis Hachem dans la réalité. T'arrives à faire ça? Alors qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Par exemple, encore une fois, il faut être croyant. Celui qui n'est pas croyant, il faut espérer qu'il habite à un étage élevé. Mais celui qui est croyant, il sait très bien que tout ce qui lui arrive, c'est Mina Shamayim. D'accord? Maintenant, il ne voit pas le lien, il voit le lien. C'est comme il veut. Il y en a qui vivent dans le complexe, qui disent « Ouais, ça veut dire quoi? La Torah est cruelle. » Il y en a qui vivent dans la causalité. Écoute, il y a des causes, il y a des conséquences. Il n'y a pas. T'as rien foutu à l'école, tu ne peux pas avoir un métier comme un bac plus 7. C'est normal. Bon, tu peux accepter. T'as pas mis de l'argent de côté, et ben tu l'as pas. Ouais, l'autre, il va à la banque, il prend un prêt. Oui, mais l'autre, il a déposé 100 000. Tant que ça a déposé des plaintes. Alors que c'est... Voilà. Donc, soit tu vas accepter la causalité des choses, ouais, soit tu vas accepter la pensée que le bon Dieu, il sait ce qu'il a à faire. Maintenant, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que chaque événement, il est entre les mains d'Hachem. Et ce qui arrive, je le mérite. C'est bon? Super. Donc maintenant, quand j'ai un problème avec quelqu'un, j'ai un problème avec cette personne-là. Il m'a planté 10 000 euros. Ouais. Celui-là, il m'a mis une baffe. Celui-là, il m'a cassé quelque chose. Il y a un événement. L'événement, il est A. Mais dans cet événement, il a au moins 50% d'émotionnel, 50% de réel. Maintenant, les 50% d'émotionnel, tu peux les économiser. Pourquoi? Parce que quand tu t'énerves, quand tu lui en veux, tu en veux à qui? Tu dis, j'en veux à la personne. Mais la personne, elle est un chalière d'Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, comment il fait? Hachem, il dit, il y a en face de vous une personne qui mérite une capara à 10 000 euros. Qui veut lui mettre en application? Un rachat, il lève la main. Il dit, anir otse liot hachaliar. Hachem, il dit, behavol. Maintenant, il lui montre l'idée de te planter. Lui, il te plante. Lui, il va être puni. Pourquoi? Parce qu'il a choisi d'être le chaliar. Tu dis, mais c'est bon Dieu qui m'a donné l'idée. Bon Dieu, t'as une idée, t'es obligé de la faire. Il va trouver un chaliar. Donc lui, en vérité, pour l'événement, il est Mina Shamayim. Mais la personne, ouais, elle, c'est elle qui le met en application. Donc toi, quand on lui en veut, tu lui en veux de quoi? Tu lui en veux de ce qui t'a fait ou tu lui en veux de ce qui t'est arrivé? Ce qui t'est arrivé, c'est Mina Shamayim. Ouais. Mais la personne qui l'a mis en application, c'est lui. Mais la différence, c'est non. Attention, ça ne veut pas dire, encore une fois, tant l'autre joue. Il y a des fautes, on a dit, si c'est un dommage réel, tu vas aller au Bedin. Mais tu ne veux pas t'angoisser, tu ne veux pas t'énerver, tu ne veux pas te battre. C'est un statut. Moi, je crois que tu es honnête, tu es malhonnête. C'est pas grave. C'est comme si je vais faire affaire avec un chien. Mais il s'est mis en costume. Alors moi, j'ai signé. Après, il a fait, waouh, waouh, j'ai signé avec un chien. Je ne vais pas m'énerver. C'est un chien. Bon, oui, c'est un chien. Pareil, je crois qu'il était honnête et malhonnête. Je crois qu'il était gentil. Je crois que c'était un ami. Je crois pas un ami. Bon, c'est pas un ami, c'est pas grave. Tu dis, mais tu sais, je crois que t'es un ami. Pourquoi je vais rajouter de l'émotionnel à ma déception? Je dis, je crois que t'es un ami.
Parce qu'on est des êtres humains.
Deux minutes.
Si on est avant.
Non, j'ai dit ça au début du cours. Parce que j'ai pensé que pendant une heure et quart, il va se passer quelque chose dans votre tête. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que, on a dit l'être humain, c'est pour la seconde, le spontané au moment où je prends la baffe. Mais après, si moi je décide de continuer l'impact émotionnel, ça c'est l'interdit. D'accord? C'est que moi, encore une fois, je n'ai pas dit que je vais me laisser faire. Je vais me défendre. J'ai une dignité, j'ai des lois, j'ai des règles. Si c'est un dommage réel, encore une fois, je peux rester 10 ans de procès, il n'y a pas de malaise. Mais je ne vais pas faire avec les nerfs. Je ne vais pas faire avec la haine. Tu me donnes l'argent. Ouais? C'est comme si tu dis, dis-moi, tous les mois, je vais passer la pelouse. Bah oui, t'as mis de la pelouse. On t'avait dit, mets une pelouse en plastique. T'as dit, je veux une vraie pelouse. Je veux genre sentir l'herbe coupée. Eh ben, c'est une dette, tous les mois, tu passes. Tu vois le mec qui va s'engueuler avec la pelouse, il dit ouais, arrête de pousser, arrête de pousser. C'est de la pelouse. C'est pareil, tu mets un enfant au monde, sache qu'il va grandir. Si tu voulais une photo, il fallait acheter une photo. T'achètes une photo, il est mignon. Mais un enfant, ça grandit. Donc ne lui en veux pas de grandir, puisque c'est un enfant. Donc en fait, tes nerfs, c'est le refus que tu as eu qui grandissent. Puisque de toute façon, depuis le départ, il était fait pour grandir. Comme les maris, ça vieillit. La femme aussi. La femme vieillit, c'est un produit évolutif, ça vieillit. Ouais, tu sais, tu te rends compte, faudrait faire des opérations, faudrait remettre tout ça en place. Écoute, je peux pas accoucher tous les ans et être Madonna, il faut choisir. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que moi, j'accepte pas une certaine réalité, et ensuite, cette non-acceptation, je la nourris avec la négation. Je mets des hormones de rhum. Les hormones d'aujourd'hui font le morbone de demain, c'est connu, d'accord? Mais c'est ça le problème. Donc, non, encore une fois, si je suis croyant, je fais bien la séparation. Si je ne suis pas croyant, je suis dans l'arbitraire. Donc, je ne comprends plus rien, j'aime personne, je veux que tout le monde meure, c'est normal. Parce que je comprends tout. Mais si je suis croyant, je dis attention, attention, attention. Il y a un événement qui est Minashamayim. Il n'y a pas d'erreur. Je comprends, c'est bien, je ne comprends pas, on m'expliquera plus tard. Et si je veux comprendre tout de suite, je peux moi-même aller à la convocation. D'accord? Donc, je sais que le bon Dieu, il fait le Emet. D'accord? Maintenant, moi, il faut que je fasse la séparation entre l'événement qui m'arrive, qui est Minashamayim, et la personne qui l'applique. Maintenant, la personne qui m'applique, j'ai des règles, j'ai des principes, j'ai des avocats, j'ai tout ce qu'il faut. Si la personne ne m'a rien fait, ouais, c'est seulement un problème d'ego, l'ego, papa, prends l'habitude. Jette-le. On pouvait. Tu vas avoir que des problèmes. Ouais. Remarquez bien que les trois quarts des problèmes qu'on a avec les gens, c'est ou lié à la matière, ou lié à l'orgueil. Ou la matière, ou l'orgueil. D'accord? Ou l'égoïsme, ou l'orgueil. Maintenant tu dis, mais si c'est réalité, je suis humain, c'est moi. Moi je pense que non. Moi je pense que les mauvaises qualités, elles ont été créées pour être détruites. Il y en a qui pensent qu'il faut les entretenir. Ils appellent ça la personnalité. Et donc ils disent, écoute, je suis comme ça, je suis méchant, je suis tordu, je suis vicieux, je suis malade. C'est ce que je te dis là. Achète un pistolet. Non! Il y a des qualités qui ont été créées pour être détruites, et la destruction de ces qualités, c'est ce qui donne les bonnes qualités.
Ouais.
L'égoïsme, ça a été créé pour être détruit. L'orgueil, ça a été créé pour être détruit. Maintenant, celui qui croit que quand il détruit son égoïsme et son orgueil, il s'annihile, il n'existe plus, c'est-à-dire que Béhémeth, il n'y a personne derrière. Alors que nous, on pense le contraire. C'est que quand la personne elle enlève l'orgueil et l'égoïsme, c'est là qu'elle apparaît. Par exemple, j'ai entendu une histoire incroyable. Il y en a un qui s'appelle Rav Yitzhak Blazer. C'était un Baal Moussar, un élève de Rav Israël Salanter. Ça veut dire quelqu'un qui a travaillé ses midot. Et à part ça, c'était un raham dans la Torah très très fort. Un jour, le Brisk Rov, le Rav de Brisk, il est venu. C'était un Gaon. Quelqu'un lui a dit, tu sais, Rav de Brisk, lui c'est le Gaon de la génération. Il lui a dit, il y a le Rav Yitzhak Blazer qui est là. Il avait entendu que c'était un chacham. Il était assis en face de lui. Et lui, il fait un Torah, et le Rav de Brisk, il réfléchit. Tata, il dit une question de folie. Ouais, une super question. Et tout le monde fait waouh. Et l'autre, il fait comme ça, Rav Yitzhak Blazer. Il dit rien. Après, il dit, après, j'ai trouvé une réponse. Il donne la réponse. Une réponse incroyable. Tout le monde dit chacham, mais c'est chacham. Après, il dit mon fils, il a donné une deuxième réponse. Extraordinaire. Et l'autre, il est resté comme ça. Après, ils sont partis. Le Rav de Brisk, il a dit, je comprends pas, vous m'avez dit que c'est un chacham. Moi, je croyais qu'il allait répondre à la question. Qu'est-ce que c'est même pas? Même pas, il a bougé. Qu'est-ce qu'il a fait? Après, il est rentré. Quelqu'un lui a offert le livre du Rav Blazer. Il a ouvert. Première question, la question. Deuxième réponse, la réponse. La réponse, les deux réponses. La question, la réponse dedans. Tu sais ce que c'est l'idée de Sarara devant tout le monde que tu as quand tu connais la réponse et la question de donner la réponse? Même pas un millimètre de gave. Pourquoi? Et si tu dis, mais quand même, c'est la reconnaissance, c'est ta valeur, c'est toi-même. Mais tu sais ce que c'est la gava? C'est que si la anava, c'est que t'es à ta place, t'es dans ta place de puzzle, ouais, la gava, c'est que tu sors de ta place. Maintenant, au lieu d'exister pour toi-même, d'exister devant Hachem, tu existes dans les yeux des autres. Mais attention, parce que si tu t'habitues à exister dans les yeux des autres, imagine-toi qu'eux aussi ils ont besoin d'exister. Alors après, qu'est-ce que tu fais? Tu te crées des manques que genre l'autre il m'a pas fait kavod, alors qu'en fait il te doit rien. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te crées des fausses nourritures Et après, tu te crées des fausses fins. Et après, tu dis, je m'en repens. Mais tu t'es inventé un problème tout seul. Alors toi, tu t'es inventé que l'autre, il doit être d'accord avec toi. Donc tu souffres quand il n'est pas d'accord. Toi, tu penses que l'autre, il doit être à côté de toi. Donc tu souffres quand il n'est pas là. Toi, tu penses que l'autre, il doit comprendre la même chose que toi. Donc tu souffres quand il ne pense pas la même chose que toi. Tu te rends compte, tu te fabriques des souffrances toi-même. Toi-même, tu les fabriques. Oui. Et ça vient de quoi, encore une fois? On a dit le piroud. Alors que quand tu fais un... C'est ce qu'il dit le... Regardez ce qu'il dit. Laurent Dessler, il dit... Les tragel les habitent al chaverenu, mais ofan chez umabit al atzmo. S'habituer à regarder son ami dans l'angle dans lequel lui-même se regarde. Kola kaas, toute la colère, ve kola sinra et toute la haine. Amerivut, les bagarres, ve aktatot, les querelles. Ba'im mishum chez kol echad ruet atzmo bimabachone. Ça vient du fait que chacun, il se regarde avec un œil différent. Umemael lirot et atzmo be'ene chavero, et il refuse de se voir selon le regard de l'autre. C'est que si moi je disais, par exemple, moi quand je parle, en même temps que je parle, je m'écoute. D'accord? Donc si je vois que vous faites comme ça, je ne vais pas dire, mais de toute façon, je dis quelque chose d'intelligent, ils n'ont qu'à réfléchir. Si je vois que vous ne comprenez rien, je vais adapter, je vais expliquer, je vais développer. Pourquoi? Parce que je suis venu pour parler pour vous. Si je suis venu pour parler pour moi, je n'ai pas besoin de vous. Il y en a, non? Et puis, écoutez, moi j'ai mon cours, j'ai dit ce que j'ai à dire et c'est tout. Mais moi, je veux de la communication, je veux qu'on ait quelque chose en commun. Ouais? Ben c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu ne veux pas avoir des problèmes avec l'autre, essaie de regarder son point de vue à lui. Dis, mais attends. Si je défends son point de vue, quand est-ce que je vais défendre le mien? Ne t'en fais pas que la nature humaine, quelqu'un ne s'oublie jamais. Lui, il ne va pas s'oublier. T'as compris? Il ne va pas s'oublier. C'est marqué Vahayachicha Immar. Il va vivre ton vie avec toi, il va vivre ton frère avec toi. Pourquoi toi, tu as peur de t'oublier, toi? Quand tu invites quelqu'un, tu crois que tu ne vas pas manger? Tu veux pas venir manger. Maintenant, si tu veux, en plus que tu manges, tu peux faire manger l'autre. Ah, c'est pareil. Maintenant, tu parles. Tu vas parler. Maintenant, en plus que tu parles, tu peux laisser parler l'autre. Alors, tu veux exister. Tu vas exister. En plus que tu vas exister, tu peux laisser exister l'autre. Maintenant, quand l'autre, il existe et toi, tu existes, alors vous allez coexister. Alors, ça fait Ehad. Ouais. Maintenant, puisque lui, c'est un Tselem Elohim et toi, tu es un Tselem Elohim, et que toi, tu arrives à voir Hachem derrière lui, et lui, il voit Hachem derrière toi. Donc tous les bénis Israël, c'est quoi en fin de compte? C'est des morceaux d'Hachem. Donc si tu fais l'otikom et l'otitor, tu fais attention de ne pas garder la rancune et la haine. C'est-à-dire que tu ne crées pas la distance avec l'autre. Et que tu accomplis des haftas, que tu fais un, puisque chacun des bénis Israël, c'est un morceau d'Hachem, donc, Ani Hachem. T'as compris ou non? C'est ça Ani Hachem. On a dit, qu'est-ce que Ani Hachem, il vient faire dans ce pasouk? Quel rapport? Et c'est pas shoot. C'est pas shoot. Pourquoi? Parce que quand toi tu fais un avec l'autre, en fin de compte tu fais un avec Hachem à travers l'autre. Tu dis, il y en a, j'arrive pas, j'espère. Tu n'arrives pas à supporter. Mais je comprends pas, Dieu il le supporte et Dieu il te supporte. Alors comment ça fait que tu n'arrives pas à supporter l'autre? Alors tu sais pourquoi? Parce que tu le regardes en tant que toi. Mais si tu t'oublies, et il faut des cordonniers, il faut des...
De tout.
Il faut de tout. Dans un livre, il disait comme ça. Il disait, comment ça se fait que les juifs, ils deviennent médecins, ils deviennent chercheurs, ils deviennent économistes? Il a dit, parce qu'ils vont toujours dans des endroits, comme ils n'ont pas de pays. Là où ils vont, il y a déjà des cantonniers, il y a déjà des gens pour sortir les nouvelles. Alors, ils ne vont pas le faire. Alors, ils vont faire plus. C'est pour ça qu'en Israël, personne ne veut sortir les poubelles. Il dit, pourquoi je vais intervenir? Pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai parlé à mes parents d'élèves dans une école. J'ai dit, comment ça se fait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont d'accord de devenir vendeurs, de devenir livreurs de pizza? Avant, les mecs qui voulaient être médecin, ingénieur, ça ne dérange pas. C'est-à-dire que le vrai problème, il n'a pas cette ambition d'être grand. Maintenant, tu veux être un Gaon, c'est une ambition. Tu veux être un milliardaire, c'est une ambition. Tu veux être Bloomberg, c'est une ambition. Tu dis, je vais être un livreur de pizza. Livreur, ce n'est pas une ambition d'être livreur de pizza. Ouais, tu sais, j'aurai mon scooter à moi et je pourrai aller où je veux avec mon scooter. Mais mon frère, quand tu auras un Falcon, tu iras où tu veux. Pourquoi tu veux un scooter? Donc le problème, c'est le manque d'estime de soi, le manque d'ambition, le manque de vision à long terme et surtout le manque de spiritualité qui veut dire regarde un peu plus loin que ton nez. Maintenant, quand les gens ils se baladaient dans le Talmud et qu'on leur a dit qu'il faut se balader dans l'économie, ils se sont baladés. Quand leur a dit faut se balader dans la Kabbalah, et après on leur a dit faut se balader dans la bourse, ils se sont amusés. Mais quand quelqu'un il arrive même pas à se balader dehors parce qu'il lui faut un GPS, tu crois qu'il va se balader dans la Kabbalah? Qui peut le plus, peut le moins? Yeshlomane. Yeshlomataim, on dit dans 200, il y a 100. Donc c'est pareil. Si moi, au lieu de croire que l'autre c'est un écueil, que l'autre de croire c'est un obstacle, je comprends que l'autre c'est une chance. Ouais, une chance, un, que je vais faire grandir Hachem grâce à lui. Une chance, deux, que je vais grandir grâce à lui. Parce que tu vas me dire, mais j'ai pas besoin de lui, moi je suis un chacham, le sien qui pêche. Et la Gemara, on dit, Ezeu chacham alomed, Mikol Adam, de tout homme. Ouais. Il dit pourquoi? Il dit, Afilou Katan, même s'il est plus petit que toi. Pourquoi? Parce que Imu Yoter Tsaïr, s'il est plus jeune, il est plus tzadik. Parce que plus il est jeune, plus la vérote, elles sont faites moins de conscience. Comme c'est moins de conscience dans la vera, donc il est moins volontaire. Donc il est moins pollué par la vera, donc il est plus pur. Comme il est plus pur, sa Torah est plus pure. Donc, Imata Yoter Chacham ou Yoter Tsaïr. Mais dans la Torah, elle ne va pas d'après la Chokhmah, elle va d'après la Tzidkout. Donc tu peux apprendre plus d'un tzadik, donc tu peux apprendre de tous. Et si tu vas dire, ouais, mais lui, il connaît rien. Mais il connaît son domaine. Il connaît bien ce domaine. Alors, il est rave dans ce domaine. Celui-là, il est rave dans la patience. Apprends de lui. Celui-là, il est rave dans le diagnostic. Apprends de lui. Celui-là, il est rave dans l'orientation. Apprends de lui. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, tu dis, mais c'est pas dans la Torah. Mais tout est dans la Torah. C'est toi qui as fait des catégories. Ouais. Mais si tu fais un, ouais, tu fais tout. Comme tu vois le Rambam, il connaissait toutes les sciences. Rashi connaissait toutes les sciences. Mais il avait ça à faire. La géométrie, la... C'est marqué les Ankril au Havaï Yesh. Je ferai hériter à ceux qui m'aiment le Yesh qui est. Il dit le natif, dans ce cas là-bas, il dit celui qui apprend la Torah de toutes ses forces, Hachem lui donne toutes les sagesses en cadeau. C'est vrai, tu vois, comment il connaissait la médecine? Comment il connaissait la géométrie, l'astronomie, la physique, la botanique, les mathématiques? Mais dis-moi, c'est pas possible. Il dit si quand quelqu'un il étudie la Torah de toutes ses forces, Hachem lui donne le reste en cadeau. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé le monde à partir de la Torah. Maintenant, les mathématiques, tu les as créées comment? Par l'observation et par la réflexion. La botanique, par l'observation. Mais l'observation de quoi? Du monde. Or, Dieu, il a créé le monde à partir de la Torah. Donc, en regardant la Torah, tu comprends le monde et l'observation du monde. Puisque tout vient de la Torah. Mais pas culturellement, l'espace même. Donc, Hachem, il donne. Maintenant, qu'est-ce que je te dis? Je te dis, tu fais un avec l'autre, c'est horizontal. Tu fais un avec Hachem, c'est vertical. Donc les puzzles, il est en trois dimensions. Donc tu prends de tous les côtés. Tu prends dans la sagesse de tous les côtés. Tu prends dans les qualités morales, parce que le bon Dieu, il a un programme pour toi, de la personne que tu dois devenir. Et bien sache que le programme d'évolution personnelle, c'est les gens que tu vas rencontrer. Les gens que tu rencontres, ils vont t'aider à grandir. Ceux que tu aimes, ceux que tu n'aimes pas, ceux que tu supportes, ceux que tu ne supportes pas, oui. Ils vont t'aider à grandir. Et tu verras que quand tu n'acceptes pas la différence de l'autre, Hachem, il t'envoie toujours le même type de personne. Le même type de personne. Parce que tu n'as pas évolué. Si tu as toujours les mêmes épreuves, c'est que tu redoubles. Tu dis, je veux passer de classe. Tu travailles. Je ne veux pas travailler. Tu fais du surplace. J'espère que tu as du crédit pour assumer le surplace. Donc tu dis, alors avance. Avance. Et quand tu avances, les gens, ils avancent avec toi. Après, tu dis, oh, il y en a, il m'appelle, il me dit, ah, qu'est-ce que je dois faire avec mon fils? Il me pose des questions, j'arrive même pas à lui répondre. Je fais, qu'est-ce que tu veux? T'es trop sincère, t'es trop entier, mon Dieu, t'envoie des enfants intelligents, que tu vas faire? C'est un beau brel, supporter du PSG. On va t'envoyer un ballon. Un gosse comme ça, que de l'air dans la tête. Tu dis, mais qu'est-ce que tu peux faire? Just do it, c'est ce que c'est faire. Mais si toi t'es chacham, si t'es pur, il va t'envoyer un chacham. Tu dis, mais c'est grave, c'est-à-dire qu'il faut. Va falloir y aller là. Ah ben oui, papa. C'est que tes enfants, ils vont t'obliger à grandir. Tu te rends compte? Oh, t'es à 14 ans, il descend le harmoud. Et toi, à 30 ans, t'as commencé à étudier. Eh, vas-y, mon frère. Le jour et la nuit, hein. Fais vite. Hein. Parce que là, aujourd'hui, il te dit, papa, c'est quoi la marloquette à Bayer Verava? D'accord? Mais peut-être dans 3 ans, il va dire, c'est comme Assez Merkava, tu vas faire quoi? Écoute, mon fils, je ne sais pas. Il va faire un kalla hamor. Il dit, si, déjà, lui, ça n'intéresse pas. Après, je te disais, qui est le kal et qui est le hamor. Je te dis, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est facile à comprendre. Mais encore une fois, mais pas de le prendre dans un côté mal.
que genre, mon fils il me remet en cause. Parce que les gens ils me disent, ouais, mon fils me manque de respect. Mais il te manque pas de respect, ton fils, il veut que tu grandisses. Il a soif. Un professeur il m'a dit, j'ai des gros problèmes avec cet enfant. Je dis, ah bon? Quel genre de problème? Eh ben voilà. Je dis, mais cet enfant, il est trop intelligent par rapport à la classe, il n'arrive pas à ta. Tu es trop lent pour lui. Donc quand tu lui donnes un exercice à la classe, donne-lui 3 à lui. Tu vas voir, il va se laisser tranquille. Il m'a dit, ah, ça a marché. Je dis, ben il faut que tu arrives à reconnaître que des fois l'enfant il est plus fort que toi. C'est dur pour un professeur. Un papa, il avait dit ça à son père. J'avais lu ça dans un livre, il avait dit à son fils. Il a dit, mon fils, si tu ne comprends pas, tu demandes au professeur. Et tu demandes au professeur qu'il réexplique. Si quand il a réexpliqué, tu ne comprends pas, c'est que lui, il n'a pas compris. Et les gens, ils ne croient pas. La semaine dernière, j'ai fait une réunion. Ils m'ont amené dans une école pour que je fasse une réunion pour tous les professeurs. Professeurs de Kodesh, professeurs de Hol, les Juifs et les Goy. Pendant 2 heures. Venez, je leur explique la pédagogie. Alors, je dis, moi, je ne suis pas professeur. Donc, j'ai des milliers d'élèves, mais je n'ai pas les élèves tous les jours. Je leur ai donné. Le prof de philo, il m'a dit, quelle école de pédagogie avez-vous fait? Je lui ai dit, le music hall. C'est quoi le... Non, mais c'est très sérieux. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un, encore une fois, il a à cœur, et là, il faut prendre le pasouk à l'envers, il a à cœur de faire un IHM. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que HM, il faut un dans le monde. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Et moi, j'ai une mitzvah pour ça, d'aider chaque personne à dévoiler la partie d'HM qu'il a en lui. Et comment on dévoile avec le kavod? Maintenant, c'est quoi le kavod? C'est de faire exister l'autre. Maintenant, comment on fait exister l'autre? En existant pour lui. Maintenant, quand moi j'existe pour lui, il existe pour moi, on appelle ça Ve'aftal et Rachakamor. Je te fais exister. Ouais? Et je ne peux pas te faire exister sans te faire exister. Encore une fois, je répète. Ah oui, ça revient à HM. Maintenant, j'ai lu le passage à l'envers. Moi, je veux faire que HM ait un. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois faire un avec l'autre. Pourquoi je fais un? Parce que Ve'afta. Comment ça s'accomplit? Il y a une double action. Une action de faire un avec l'autre et une action d'éliminer ce qui nous sépare. Donc, je ne peux pas faire l'otikom, l'otitor. Je ne peux pas faire l'otisnet achicha. Je dois faire ochiatochiatitamitecha. C'est le même passage, c'est le même parasha. D'accord? C'est le même mot. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est très simple. Qu'un homme, il est là, en vérité, pour faire que HM soit un. Maintenant, quand moi, j'ai réussi à tellement, entre guillemets, dénaturer, déshumaniser, mais dans le sens animal, petit, j'ai enlevé la petitesse de ma relation avec l'autre, j'ai plus de problème avec l'autre. Ça va? C'est comme si tu dis, ouais, on sait, dans le couple, on a des problèmes de communication, des problèmes d'argent, des problèmes de nerfs, des problèmes de nos parents. Mais t'as pas compris, notre amour, il est beaucoup plus puissant que ça. Ça, c'est des détails. Ou tu dis non? Notre amour, il vaut ça. Donc, quand il y a ça, il n'y a plus rien. Ah bon, d'accord. Ah, je pensais qu'on s'aimait. Ben, c'est pas grave. Mais dans tout, c'est pareil. Mais c'est ton fils, ça, c'est ton fils. Ah oui, d'accord. Donc, tu vas dépasser. De toute façon, c'est HM, si tu veux lancer HM. Oui, c'est pas beau. J'ai perdu 100 000 euros. Tu parles de qui, là? On parle du bon Dieu, maintenant. Ah, excuse-moi. J'étais en train de bagarrer avec le. Encore une fois, avec l'autre, je vais poser les règles, je vais me défendre, je vais truquer. D'accord. Mais dans ma tête, je peux pas mettre le même émotionnel, puisque je sais que 90% de l'événement, il est lié à moi. Et tu verras que quand tu es arrivé, tu as enlevé l'émotionnel, tu peux régler l'affaire tranquillement. Alors que quand tu vas avec les nerfs, avec la haine, l'autre il en profite pour détourner le problème. Tu dis, voyez, regardez comment il s'énerve. Ah, toi tu dis, oui, mais si j'ai pas les nerfs, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Si j'ai pas la haine, j'arrive pas jusqu'au bout. Donc si tu as été jusqu'au bout, tu n'as pas été au bout de l'honnêteté, tu as été au bout de la haine. Ça va du coup. De faire des affaires pour avoir un infarctus, tellement tu as la haine. Qu'Hachem nous aide dans la chair à finir à l'heure la prochaine fois et à atteindre un petit peu de tous ces niveaux. Moi le premier. Donc juste, quand c'est quoi le nom?
Dimanche 12 décembre.
Alors c'est exceptionnellement, c'est un dimanche, bien que c'est le jour de. Bon, mais quand même, on fera un effort. Comme ça, on va essayer de voir une nouvelle formule. Si d'autres personnes préfèrent venir le dimanche après-midi plutôt que de venir le lundi, ça, à quelle heure?
18h.
À 18h. Donc vous prévenez vos copains, vos frères, vos sœurs. Ceux qui ne sont jamais venus, vous leur dites que c'est Coluche. Ceux qui sont déjà venus, vous leur dites que c'est Lévinas. D'accord? Comme ça, on va réussir. Maintenant, on dédie le cours Bezat Hashem pour la réfoua chez les mains de...
Yehuda ben Yaakov.
Pour Yehuda ben Yaakov, que Hashem lui envoie une bonne opération. Et aussi pour...
Menachem
Mendel ben Rivka.
Amen.
Moshe ben Vera. Amen. Shlomo ben. Shlomo Salman ben. Shlomo Zalman Yonatan ben. Ben Dvora. Amen. Et pour Simcha Baslecha. Tana Bataziza.
Amen.
Pour le Rav Shlame, Rav Azimov.
Amen.
Rav Eliashiv.
Amen.
Rav Obadiah Yosef.
Amen.
Pour Léoné Ben Rosa.
Amen.
Il faut dire Amen, c'est plus important.
Antonella
Ruth Bat
Ornella.
Amen.
Amen. Réfléchis-moi. Alors après. Alors maintenant, à ma vie, mes amis, on demande aussi que le cours soit dédié. Léonou Nishmatan de Aram Shimon Ben Sifra.
Amen.
De Elio Melaïcha, Issa Melaïcha, Ram Kadri, Ram Bentov, Ram Mordechai Yahou.
Amen.
Aaron Ben Shmuel.
Amen.
Amen.
Chaya.
Chana.
Bat.
Usher Enzel.
Amen.
Leilou Nishma, c'est à la mémoire.
Chaim Ben Sarah.
Chaim Ben Sarah. Amen.
Yaakov Ben
Shula.
Yaakov Ben Shula.
Amen.
Moshe Ben Nuna.
Amen.
Yitzhak.
Moshe ben, ben Rachel.
Amen. Yitzhak ben Moïse.
Yitzhak ben Moshe.
Amen.
Aaron ben Froma.
Amen.
Amen.
Abraham. Reuven ben, ben Abraham.
Reuven ben Abraham.
Amen.
David ben Raphaël.
Amen.
Raphaël. Amen.